émission On en jase sur l'heure du midi. Il est présentement midi, justement, ça tombe bien. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102 avec Jeff Fortin, Pascal. C'est vrai, Pascal, tu me regardes avec un petit sourire.
Tout est dans tout, hein? On en jase à midi. Il est midi.
Il est midi. Let's go! Hey, ça part, ça, c'est chapeau de roue à midi.
Oui.
418-971-101, évidemment, pour réagir. On va parler de plein de choses, certains qui vont me faire réagir, comme de l'immigration, de l'itinérance. Et on va aussi parler de Karl Malenfant. Oh! Antonine Iaccarini, même si on n'a pas pesé sur le bouton du caucus, là, il fait pitié, notre Karl. On dit, il est moins faire pied.
Il fait-tu pitié?
Ouais, il fait pas pitié. C'est juste qu'il il a débombé le torse.
Ouais, il est arrivé très de bonne humeur la semaine passée. Hein, le grand sourire.
Confiant.
Il parlait beaucoup aussi. On lui posait une question de 15 secondes. Il répondait pendant 8 minutes. Disons qu'il a changé d'attitude.
Là, il s'en tient au fait un peu plus. Hein, en effet, Karl Malenfant. Pascal CV, passez un beau week-end.
Absolument. Dans les derniers préparatifs, il faut que ça rentre 15 kilos dans le bagage.
Magique.
Sac de compression et tout ça.
C'est ça. Demain midi et demi, Joannie vient nous voir. On parle du Kilimanjaro.
Oui, Joannie qui est, elle, est très, très prête aussi.
Ah ouais, j'ai assez hâte que vous m'en parliez encore plus en détail. Je vous admire, les filles, d'aller faire ce beau défi.
Ben oui, toi qui fais un gros Irox en fin de semaine.
Oui, j'ai fait un Irox en fin de semaine avec ma blonde.
Tu peux bien parler.
Ça a été extraordinaire comme événement. Ça a été... j'ai vraiment, vraiment adoré. Puis là, je vais être romantique 2 secondes et quart. J'ai adoré le faire avec ma blonde.
Mais c'est un autre type de date, hein? C'est, honnêtement, t'es en train de tuer ta vie.
Excusez mon ignorance.
Qu'est-ce
que c'est ça?
Un IROX, dans le fond, c'est que tu cours 1 kilomètre et tu t'en vas faire une épreuve physique et t'en fais 8 fois. Donc, tu cours au total 8 kilomètres en ayant fait 8.
C'est vraiment un week-end de rêve.
Effort physique.
C'est ma définition d'un cauchemar. Écoute, mais t'as l'air tellement content. Je suis contente de vous.
Ah, vraiment? On a vraiment, vraiment eu du plaisir.
Est-ce que vous êtes pognée? Puis...
Non, du tout.
Parce c'est des efforts physiques. Là. C'était un peu sarcastique avec le week-end de rêve. Là. Je trouve ça intense quand même, mais toi, t'étais en forme. Puis tout ça.
Non, au contraire.
Val, ta blonde aussi.
Ah oui, au contraire, on a profité de chaque instant, je te dirais. Donc, c'est ça. C'était vraiment, vraiment...
Vous n'étiez pas dans la performance pour gagner?
Non, on n'était pas du tout dans la performance pour
gagner.
Plaisir. On le faisait pour le plaisir. On l'a fait. Je me plais à dire qu'on le fait en 1h24 parce que c'est 1h24, 59 secondes et 99 centièmes
non,
de seconde.
Non, ça, c'est tellement à toi, là.
Et là, Val me dit, on l'a fait en 1h25. Je dis, non, il est écrit 1h24.
Ouais, félicitations.
Merci, non, honnêtement, ça a été une belle activité de couple. Puis oui, tu veux pas, au départ, tu sais, à un moment donné, on va te dire, ben ouais, qu'est-ce que tu fais? Puis, pas en tout, on avait notre plan de match. On a respecté le plan de match.
Donc, Anto, prépare-toi à mon retour, on fait pas ça.
Pas.
On ouvre une bouteille de vin.
Oui, c'est ça. Moi, c'est moins mon style, mais je trouve que ça peut rapprocher comme ça peut... éloigner, diviser, comme
ben, nous
disait Pascal.
Nous autres, ça nous a vraiment rapprochés.
OK, j'ai le goût de passer ton couple en test une seconde.
Ah ouais, donc.
Est-ce que vous vous chicanez quand vous allez au IKEA?
non, parce que je suis le genre de gars qui dit « Ouais, pas de trouble, jette-le. »
Ah, ça, c'est très bon.
Est-ce
très
que
bonne
c'est déjà
attitude.
Vécu, ça?
Ben, écoute, je pense que la
Tout
plupart
le monde,
des couples ont déjà vécu ça. Puis, dernière question, est-ce que vous avez déjà eu à faire des rénos ensemble?
Oui.
Comment ça s'est passé?
Ça a été une épreuve de couple.
C'est dur.
Non, non, mais c'est vrai. Mais c'est sûr que c'est dur. Puis je l'ai déjà expliqué. C'est dur parce que Val voit toujours le big picture. Puis une chance que Val est dans ma vie pour ça. T'sais, je vais l'avouer, là. Moi, là, je suis pourri là-dedans de voir le...
Visualiser ce que ça peut donner.
Du plan.
Le potentiel.
Tu vois quoi? Tu vois les factures du plombier, de l'électricien,
moi, je vois
du plâtrier.
Moi, je vois l'activité que je suis en train de faire. Puis honnêtement, c'est parce que j'ai conditionné mon cerveau à ça. Je suis un gars qui fait beaucoup d'anxiété. Fait que je me concentre sur la tâche que j'ai à faire pour pas voir le big picture, pour pas paniquer.
Je comprends.
Et là, ben ça arrivait que Val, des fois, me parlait du big picture. Puis moi, je la ramenais toujours. Ben non, mais c'est pas grave, là, gars. On est en train de poser le plancher.
Une bouchée à la fois.
C'est le carreau à la fois.
Mais toi,
t'es
carreau
pas là-dedans,
à la fois.
Dans des rénaux?
Toujours dans des rénaux, mais mon chum a à peu près la même attitude que Jeff. Oui, chérie. Fait qu'il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tout va très bien.
Mais je comprends que je suis déstabilisant. Tu sais, dans le sens que... Là, le big picture montre qu'on ne rentrera pas dans l'échéancier. Mais moi, je suis comme, il n'y a pas de problème. On est en train de poser du plancher. C'est sûr que c'est énervant pour la personne qui me dit oui, il y a un problème.
Oui, parce que si on ne fait pas le plancher à temps, le gars qui vient poser les armoires ne peut pas venir. Puis là,
toi, ça, tu le sais. Puis tu sais qu'il y a des débordements de quoi à ce moment-là. Puis
C'est ça. Fait que c'est sûr que je deviens hyper stressant pour la personne qui me dit. Non, non, mais chérie, c'est parce que tu comprends pas, là. on est dans la merde. Puis moi, je suis comme, ah, c'est le soleil!
Mais peut-être que tu calmes aussi l'autre personne à tes, aussi. À, dans tes moments, tu sais. Parce que, oui. Mettons, t'as une journée débile. Là. Mettons, t'as une journée à Antonine et à Carini, tu fais de la radio, de la télé, t'analyses quelque chose, tu suis calme à l'enfant à la commission, ça n'arrête plus, t'as un enfant là-dedans. Mais peut-être que si tu te dis en tôt, OK, là, je suis en radio en ce moment, je suis dans le caucus, il y a Carini dans quelques secondes, je peux rien
on
faire
va vivre
d'autre,
le moment présent.
C'est là où je suis.
Je pense que oui. Mais ça peut être stressant. Quand t'es stressé ben puis t'as quelqu'un en face de toi qui est pas assez stressé, on dirait que tu dis, ben, il faut que je stresse pour deux. Ben... Il est complètement inconscient.
Ouais, puis c'est parce que dans ce temps-là, je le sais, je deviens pas un bon équipier. Mm. Parce que un bon équipier, c'est de regarder la personne et de dire, oui, je comprends ton stress.
De faire ta part.
Exactement.
Un peu, ouais.
Mais regarde, je le vois de même. Mais tu sais, je suis pas assez bon pour faire ça. Là, j'avoue une lacune que j'ai. Fait que moi, à la place, c'est comme. Ben non, ça
mais
va
c'est
se
quoi?
Ranger.
Tu le sais, Jeff. Donc, à partir du moment que tu le sais, c'est là où ça peut changer
exactement.
Ou s'améliorer.
Exactement.
Mais j'aime bien la technique de se dire, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Fait que moi, je vous suggère qu'on commence par la première bouchée. Vous voulez qu'on parte ça pour le caucus?
On y va comme ça.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Mais tu vois, je pense à ça avec l'IROX, on a fait les deux. Là. On a regardé le grand plan, on s'est dit, hey, toi, tu vas être meilleur là, tu vas en faire un peu plus. Moi là. Puis après ça, on l'a fait étape par étape.
Puis vous l'avez fait. Vous
avez... Puis on a réussi.
Vous êtes passé à travers, et vous êtes encore ensemble.
On aurait dû faire un IROX avant des Renault. Non,
à la place des Renault. Tant pis pour les Renault.
Il en reste encore un peu de Renault à faire. Et on va s'occuper de ça. Antonine Iaccarini, on commence par la première bouchée de François Legault qui est passée. Tout le monde en parle?
Ben oui, une entrevue. Disons que c'est des entrevues. Plus bon enfant. Hein. Tout le monde en parle. C'est pas un hot seat. Là. C'est pas l'entrevue où tu te fais rentrer dedans. Les politiciens aiment bien aller à Tout le monde en parle. C'est sûr que j'ai envie de dire les politiciens de gauche aiment encore plus aller à Tout le monde en parle. On s'entend que c'est un contexte qui est souvent plus favorable avec un public aussi qui est plus favorable à la gauche qu'à la droite. François Legault, c'était du pain béni pour lui de faire une entrevue comme ça.
Clairement, parce que tu as il n'y a pas vraiment de questions pièges. On laisse parler très longtemps sans
relancer. Tu peux
finir
ta pensée.
Exactement.
Alors que récemment, ben en fait, c'est comme ça un peu tout le temps. Quand on suit un politicien à travers les médias de nouvelles là, les jours de semaine, ben c'est des petits clips de 15 secondes qu'on voit passer.
Vraiment.
Puis après ça, ben il y a beaucoup de commentaires politiques. Puis on analyse la petite clip de 15 secondes.
J'ai été cité hors contexte. On l'entend souvent en ce moment.
C'est comme s'il avait jamais dit ça. Donc, une entrevue comme ça, plus longue, ben c'est sûr que c'est avantageux. Ça permet d'aller au bout de son idée. Pour moi, qui suis tout, puis que c'est la même affaire pour tous les deux qui suivent l'actualité et qui suivaient l'actualité à tous les jours, ben c'est sûr qu'on n'a rien appris vraiment. Il y avait une petite nouvelle concernant les médecins, là, disant qu'on doit aller jusqu'au bout, peut-être avec une loi spéciale. Mais sinon, François Legault avait fait une tournée d'entrevues. C'est toutes des choses qu'on avait déjà
entendues. On avait su, tournée d'entrevues à Québec, tournée d'entrevues à Montréal. On va justement y aller avec la loi spéciale, justement, qui peut être l'élément de nouveauté de cette entrevue-là.
La société.
Bien, prenez les médecins. Là. Depuis que je suis en politique, même quand j'étais avec Lucien Bouchard, qui est maintenant un des négociateurs pour les médecins, il est question qu'on doit changer le mode de rémunération des médecins pour qu'une partie, vous savez, ils gagnent 400 000, 500 000 par année, pour qu'une partie de leur salaire soit conditionnelle à une certaine performance, entre autres à une prise en charge des Québécois par les médecins de famille. Or, les deux syndicats de médecins refusent de nous rencontrer, ils refusent de négocier avec nous. On a déposé une loi, puis là, je veux être clair, parce que M. Bouchard a dit des choses qui ne sont pas exactes. On a déposé une loi, la loi 106, qui est nécessaire pour changer le mode de rémunération, pour changer la loi de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie. Ce n'est pas une loi spéciale, mais si c'est nécessaire de faire une loi spéciale, il y aura une loi spéciale.
Ça tranchait avec le discours de Christian Dubé de la semaine dernière qui disait « Il reste deux semaines, on avait fait jouer la clip, j'ai une ouverture d'esprit, je suis prêt à amender des choses, je fais ouvrir des heures de bloc opératoire, venez vous asseoir avec moi, on va régler ça. » Là, François Legault, lui, il a sorti à matraque, il a dit « Hey, one minute, ça va être une loi spéciale si vous négociez pas. »
il faut se rapporter aux objectifs. Le ministre de la Santé, son objectif, c'est un jeu de négociation. Là. C'est un peu comme quand tu es à la pêche. À un moment donné, tu laisses un peu de laisse. Là, puis après ça, tu trolles plus fort, etc. Bon. C'est le jeu de Christian Dubé. Lui, ce qu'il veut, c'est arriver à une entente, finalement. François Legault, je dis pas qu'il veut pas arriver à une entente, sauf que là, son objectif principal cette semaine, c'est quoi? C'est de se sortir la tête de l'eau.
Oui.
C'est d'essayer d'aller récupérer un peu de popularité, d'expliquer aux Québécois qu'est-ce qu'il veut faire dans la dernière année avant la campagne électorale. Donc, il ne parlait pas aux médecins hier.
Non,
hein,
il parlait à la population.
Oui. Et ces Québécois-là qui attendent pour plusieurs un médecin de famille. Puis, on a vu dans les dernières décennies plusieurs ministres de la Santé essayer de faire en sorte qu'il y ait une plus grande prise en charge. Quand on dit une prise en charge, c'est quand vous trouvez un médecin de famille. Là. Vous devenez le patient de ce médecin-là. Et il y a eu toutes sortes de choses. Hein, des primes. Là, à un moment donné, on a fait un guichet unique, puis là, on a fait un système de classement d'urgence. Là, si tu as une maladie chronique, là, ça va aller plus vite, etc., etc. On n'a jamais réussi à trouver exactement la bonne manière pour faire en sorte que les gens, surtout ceux qui en ont le plus besoin, soient pris en charge par un médecin de famille. Christian Dubé a fait toutes sortes de choses autour. Là. On pourrait parler des pouvoirs qui ont été dévolus à d'autres professionnels de la santé. Après ça, du côté des infirmières, on a mis fin au recours aux agences privées, on a fait une entente avec les infirmières, etc. Là, on est rendu à s'attaquer au mode de rémunération des médecins. Puis c'est là que, vraiment, on rentre dans le morceau qui est plus controversé avec les médecins. Et ils sont tellement fâchés. Moi, je vous dis, à chaque fois qu'on en parle, je reçois des courriels. Ils sont émotifs.
As-tu eu des courriels, finalement, de gens qui voulaient te parler? Parce que la semaine passée, on a fait un appel à tous, puis on voulait quelqu'un un peu pour discuter. As-tu eu ça?
Bien, je reçois beaucoup d'emails qui me disent qu'on ne comprend rien sur ce qui est leur réalité et tout ça. Puis quand je leur demande, OK, ben, pouvez-vous nous dire, par exemple, quelles erreurs factuelles ont été faites? Il n'y a pas d'erreurs factuelles. On est dans les motifs ici. Moi, j'ai des médecins qui m'ont offert de venir constater, les suivre dans une journée de travail. Moi, ça va me faire plaisir d'y aller, mais je n'ai jamais douté que les médecins travaillaient beaucoup. C'est pas ça la question. La question, c'est comment on fait pour que les gens qui ont besoin d'être suivis par un médecin de famille, pas prendre rendez-vous sur Clic Santé parce que là, tu as une urgence, puis tu as une infection, puis ça presse. Quelqu'un qui te fait un suivi. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est pas tout le monde qui a besoin d'un médecin de famille en passant. Moi, j'ai une infirmière de famille, ça se passe très bien. Là. J'ai pas Clairement. Besoin.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Ah oui, j'ai une IPS. Moi, je vois jamais le médecin. Elle me réfère quand j'ai besoin.
Puis c'est toujours avec la même que tu fais affaire?
Bien, c'est une clinique où il y a plusieurs professionnels de la santé. Moi, j'en ai une qui m'est attribuée. Mais c'est
au public, là.
Oui. Okay. C'est extraordinaire. Là. Ça devrait être ça pour presque tout le monde, soit dit en passant. Mais comment on fait pour que le mode de rémunération fasse en sorte qu'on ait la plus grande prise en charge possible? Si c'était 100 % de la capitation, qu'on appelle, là, puis qu'on n'était plus à l'acte, ça encouragerait les médecins à vous prendre en charge, mais pas à vous voir. Quand c'est seulement du paiement à l'acte, ça encourage de faire le plus d'actes possible, mais pas de prendre en charge, surtout des patients vulnérables qui te demandent beaucoup de travail, mais qui finalement, c'est pas tant d'actes.
C'est ça. Donc, de vous voir 7-8 minutes au lieu de vous voir pour un topo complet, exactement.
La qualité serait moins là. Donc, on est toujours dans cette recherche-là. Puis effectivement, le ton de François Legault hier, c'était plus de dire, écoutez, on va aller jusqu'au bout. Puis c'est le message qu'il voulait envoyer aux Québécois, je pense. Yes.
Parlant d'autres messages qu'il voulait envoyer aux Québécois, François Legault a admis ses erreurs. On l'écoute à l'instant.
Bien, écoutez, il y a certaines erreurs que j'ai faites. Je vous en donne quelques-unes.
Oui.
Les Kings de Los Angeles.
Bon, c'était en haut de ma liste.
En haut de votre liste.
En haut de ma liste.
Ah, oui, de dire, je fais venir les Kings de Los Angeles pour montrer à M. Bettman qu'on a un bel amphithéâtre à Québec et qu'il devrait nous donner le retour des Nordiques. C'était pas une bonne idée. C'était une erreur. Bon, tantôt, on parlait de Saclic.
Ouais.
J'aurais aimé ça réagir plus rapidement puis poser plus de questions. Nordvolt, ben si c'est à refaire, c'est sûr, mais c'est facile de jouer comme ça après à votre jeu plan B, de dire on n'aurait pas dû le faire.
La valse du troisième lien, par exemple.
Oui. Bon,
on le fait, on le fait pas.
Mais j'aurais oublié l'hésitation parce que c'est important de le dire là. À Québec, il y a juste un pont qui accueille les camions. Puis pour une question de sécurité économique. C'est en pleine expansion Québec et Lévis, entre autres avec le chantier naval et ce qui se passe en défense. Donc, on a besoin, c'est un vieux pont, on a besoin d'un autre pont. Donc, j'aurais pas dû hésiter parce que l'hésitation, c'est pas toujours bien vu. Je l'ai fait pendant la pandémie.
Ouais.
Les gens ont apprécié que j'admette mes erreurs, mais dans le cas du troisième lien, à Québec, ils n'ont pas apprécié.
C'est-tu trop peu, trop tard? Il me semble que ça aurait dû être après la volée dans Jean Talon en 2023.
Oui, puis quand il y a eu la volée dans Jean Talon, ben, ce qu'il y a eu, c'est on s'excuse, on s'est trompé sur le troisième lien, puis on s'est relancé dans le troisième lien. Cela dit, bon, moi, je trouve ça toujours un peu étrange quand un élu lui-même fait la grande liste des erreurs puis de ce qu'il aurait dû faire ou pas faire. Ça m'a rendu un peu mal à l'aise comme exercice. Les Kings, c'est facile. Puis clairement, il l'avait identifié quand il s'est préparé pour faire sa tournée d'entrevue.
Il en a parlé immédiatement.
Tout le temps. Ça a peu d'impact.
Puis c'est-tu vraiment, mettons, sa plus grosse erreur? Puis c'est sans méchanceté, c'était une erreur, moi, je considère dans mon opinion. Mais une fois que c'est dit, c'est une erreur qui est plus émotive que celle du troisième lien où il évoque plutôt qu'il hésitait. Mm-hmm. Puis j'ai oublié le terme parce qu'entre-temps, bon, notre prochain invité est arrivé, puis il a eu le téléphone, mais il a utilisé un terme spécifique, puis le terme qu'il a utilisé quand il a dit, il y a eu hésitation, c'était beaucoup plus une hésitation politique qu'une hésitation à le faire. La manière dont il décrivait, c'est ça n'a pas passé marketingment parlant côté politique. Tu l'évalues comment, toi?
Bien, ce qu'il voulait dire, c'est le troisième lien, c'est pas une erreur, on va le faire. Puis il voulait le rappeler. Puis il s'est jamais gêné pour aller dire ce message-là à Montréal en passant. Non. Là, d'expliquer qu'à Québec, on le veut puis qu'on en a besoin. Là. Puis c'est pas tout. Puis ce message-là passe pas du tout. En long puis en large.
Cela dit, si on fait la leçon à Montréal, ils vont nous en tenir rigueur.
Absolument, toujours.
Sens-tu qu'il est vraiment désiré ou plutôt on est allé avec des arguments qui sont arrivés du public ou des citoyens ou du commerce ou.
Ben en fait, il y a des sondages après sondages qui confirment qu'à Québec, c'est populaire là, comme projet. Mais en fait, moi, ce qui me dérange dans ce qu'il dit, c'est que, oui, c'est l'hésitation, mais c'est qu'en fait, c'est arrivé dans beaucoup de dossiers. Fait que finalement, c'est pas le troisième lien, c'est cette approche-là. Oui, encore cet été, avec les compressions en éducation, on annonce des compressions. Après ça, ben là, il y a de la grogne, ça sort dans les nouvelles. On est très sensible à ce qui se passe dans les journaux. Puis là, ben on recule, mais on dit « Ah non, c'est pas un recul, c'était déjà prévu de même. » Mais il y a personne qui a acheté cette théorie-là.
François Legault veut-il être trop aimé?
Ben puis d'ailleurs, quand Jean-Sébastien Girard lui pose la question, si c'était à refaire, tu sais, qu'est-ce que vous feriez différemment? Il y avait une longue intro dans laquelle il disait « Vous avez été tellement populaire pendant la pandémie, vous aviez des taux d'approbation. Hein, c'est extraordinaire. »
Ouais, de 85, puis là, vous êtes devenu celui le moins populaire au Canada.
Tu sais, je regardais le visage de François Legault pendant ce... Parce que moi, j'adore regarder les réactions des gens pendant qu'ils parlent pas.
Vas-y, c'est intéressant.
Puis, pendant qu'on parlait de popularité, il y avait un petit sourire, il y avait le regard un peu nostalgique dans le passé.
De ses belles années.
Oui, je pense que ça l'affecte, honnêtement. C'est un policier qui a été très aimé. Là, en ce moment, il est de bon ton de dire que tout ce qu'il fait est épouvantable et qu'il est donc pas bon, mais il a été énormément aimé. Il a été aimé longtemps. C'est une des plus longues lunes de miel qu'on a vues en politique, honnêtement.
C'est clair.
La pandémie y est pour quelque chose. Mais lundi dernier, là, quand François Legault est allé au Stade Canac puis s'est fait huer, là, ça a dû le pincer.
Ça y a fait mal.
Je pense qu'il y a des politiciens que ça les touche moins, mais j'ai l'impression, puis je suis pas dans sa tête, évidemment, mais j'ai l'impression que ça a dû le pincer de se faire huer.
Je remercie Philippe par texto qui dit 7 millions dans une game d'hockey au lieu de l'itinérance ou la santé mentale. C'est complètement ridicule et une erreur monumentale. Je le remercie parce que j'étais pour te dire « Hey là, les Kings, on en revient-tu? C'est une erreur de 7 millions? » Mais il m'a ouvert les yeux sur autre chose. Donc, merci Philippe. On termine, François Legault, avec ses commentaires sur l'immigration.
Depuis 2 ans, le gouvernement fédéral a augmenté de 200 000 à 400 000 le nombre d'immigrants temporaires, en particulier à Montréal. Ça pose des problèmes de logement, ça pose des problèmes en éducation, en santé, ça pose des problèmes avec notre langue, puis ça pose des problèmes avec nos valeurs comme la laïcité. La majorité des Québécois n'aiment pas voir des prières de gens à genoux dans nos rues ou devant la basilique Notre-Dame. C'est important de respecter ce que souhaite la majorité des Québécois.
Je veux t'amener ailleurs avec la question parce que moi et Pascal, on va en parler tout à l'heure vers 13h30 avec justement Kim Thieu qui est passé par la suite à Tout le monde en parle. On a sorti des extraits. Manque-tu de sensibilité, notre premier ministre, quand il parle d'immigration?
Ça a toujours été un peu plus difficile. Hein? François Legault, c'est un gars économique. C'est un comptable.
Son obsession, c'est ça. Son fichier Excel d'immigration. C'est ça que, tu sais, quand il parle, j'entends le fichier Excel.
J'ai la misère à le catcher, moi, ça, parce que oui, on dit que c'est ça qu'il représente, mais on ne l'a pas vu au niveau des chiffres, on dirait, sous sa gouvernance. Mais je me trompe peut-être, là.
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu?
Le fait d'être un peu rigide dans ce qui doit rentrer. On a eu beaucoup de débordements de coûts, des défenses de projets X. Il n'y a pas eu un genre de sentiment de « on s'attache la ceinture ».
Oui, effectivement. Cela dit, quand il parle d'immigration, c'est vrai que c'est un peu binaire des fois. Puis des fois, il faut rajouter quelques mots, un peu d'enrobage autour de quelque chose, même si ton message va rester le même. Et moi, je pense que la position du gouvernement, il y a des choses qui sont importantes, qui doivent être dites. C'est vrai qu'en ce moment... Puis avec Ottawa, c'est pas facile. Ça fait plusieurs années que le gouvernement du Québec tire la sonnette d'alarme, dit c'est trop pour nous, ça dépasse notre capacité d'accueil. Sauf que François Legault, ça fait pas longtemps qu'il a commencé à ajouter, par exemple en intro, c'est pas contre les immigrants, c'est pas contre les personnes. Ça fait une différence. Les mots ont une importance, puis il s'est un peu raffiné récemment. Mais on sent que c'est pas naturel chez lui. Alors que quand, par exemple, Christine Fréchette était ministre de l'Immigration, je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose qu'on s'est dit, mon Dieu, mais quel manque de sensibilité. C'est jamais arrivé. Donc, c'est possible d'avoir les mêmes positions, les mêmes messages, mais de pas les... En fait, c'est ça, de pas traiter les immigrants comme des fichiers Excel.
Dans un discours rassembleur, dans un discours où tout le monde fait des compromis, qu'on a besoin l'un de l'autre.
De le véhiculer différemment. Parlant de manque de sensibilité ou de mauvaise communication, je te fais entendre Napoléon Wu, qui est le candidat pour Sam Hamad de Leadership Québec, propriétaire du Walk and Roll à Saint-Roch, qui a parlé d'immigration de cette façon-là lors de sa présentation vendredi dans le comté de Saint-Sauveur-Saint-Roch.
L'itinérance devrait être une période de transition, pas un genre de culture là, que vous mangez gratuit, vous avez des logements gratuits, vous avez des vêtements gratuits. Aujourd'hui, à Québec, tu n'es pas obligé de travailler pour vivre. Il n'y a personne qui est mort de froid là, ou de faim. T'sais, à Saint-Roch, il y a 13 organismes là, qui donnent la nourriture au monde. Là.
Bon, ce matin, j'ai eu un petit débat philosophique avec Yannick Marceau, l'animateur du matin, qui disait « Ouais, mais voyons donc, c'est un commerçant, il est dans la rue, il voit ce qui se passe, on devrait prendre son point de vue. » Puis moi, je disais « Ben, j'aimerais ça que M. Wu prenne un chariot qui aille vivre un mois dans la rue, puis il viendra me dire s'il n'a pas eu fret, il viendra me dire s'il a mangé à sa faim. »
Quand il me décrit, quand il nous décrit comme ça la vie d'un itinérant, comme si c'était un tout inclus, là.
Ouais, c'est ça, le type Club Med, là.
Ouais, c'est
les rues de Saint-Roch dans Slush au mois de février,
je
suis pas le Club
Med. Je me suis demandé
si
c'était pas un choc de réalité, tu sais, de cet homme-là. Je connais pas sa vie, mais mettons, t'arrives, toi, d'ailleurs, puis t'as fui un contexte X, puis il y en a plein qui ont bûché, là. Tu vois, mettons, tous les réfugiés, là, des années... en montant 50 jusqu'à X, Y, Z, 90, il y en a plein, des Cambodgiens, il y en a plein. Eux, ils ont bûché, puis ça, puis je pense peut-être qu'ils n'ont pas l'aspect de santé mentale qu'on voit dans nos rues en ce moment, là, qui joue beaucoup sur les gens en situation d'itinérance. Mais je me demande si ce n'était pas un clash de réalité qu'eux ont vécu en disant, nous autres, on a bûché fort, on est rendu en commerce, on est commerçant et tout ça. Pourquoi est-ce que là, eux, ils sont aidés de cette manière-là quand les filets sociaux n'étaient pas tout à fait les mêmes auparavant? Ça peut être une question de sensibilité, de parcours, vous pensez?
Bien, c'est sûr que ton expérience personnelle va avoir un impact sur comment tu vois les autres, sauf que c'est un manque d'empathie. Moi, parce que j'ai travaillé, les autres... Mais de toute façon, je veux dire, si tu connais un peu la question de l'itinérance, tu sais qu'il y a toutes sortes d'enjeux qui se mélangent à ça. Souvent, toxicomanie, santé mentale. C'est pas juste une question... En fait, ce qui est grave avec ce que M. Wu a dit, c'est qu'on laisse entendre que c'est des gens paresseux qui aiment être itinérants. Moi, c'est ça que le message qu'on reçoit.
Parce que c'est un tout inclus.
Ça vient, en fait, renforcer des préjugés que, en fait, je trouve que ça vient renforcer des préjugés que j'entends très peu de nos jours, en fait.
Moi aussi.
Je dois vous dire, j'entends la plupart des commentaires que j'entends sur les personnes itinérantes, c'est souvent plein d'empathie. Ce que j'entends plus, c'est que l'itinérance, ça dérange, et ça, c'est correct aussi de le nommer. Des fois, je vais à Montréal, puis il y en a beaucoup plus, évidemment, qu'à Québec, quoi. C'est en augmentation partout. Puis là, quand tu fais un commentaire du style, tu sais, tu vas manger sur une terrasse, puis là, il se passe des choses, disons, à côté de la terrasse, que c'est difficile, puis tu es en famille. Puis tu passes un commentaire, puis il y a des gens qui vont dire, « Mais là, il faut cohabiter, tu es intolérant. » Moi, je me fais traiter de fille de Québec des fois, puis je dis, « Un instant, là, moi, je ne vais pas m'habituer avoir la misère humaine comme ça. Je veux qu'il y ait des services, je veux qu'on s'organise pour qu'il y en ait le moins possible, pas parce que je leur en veux personnellement, puis que je pense que c'est des mauvaises personnes. Mais ça, il faut le nommer. Puis les commerçants dans Saint-Roch qui le vivent, là, l'itinérance, aussi ont des choses à dire, puis il faut les écouter. C'est juste que ce que M. Wu a dit, c'est pas juste il faut en faire davantage notre quartier. Il y a beaucoup de défis. C'est pas ça, là. Il est allé dire que finalement, les gens qui étaient des itinérants, bien, c'est parce qu'ils sont dans une culture de l'itinérance, puis qu'on les entretient là-dedans. Et il en a rajouté en disant que les organismes, Il ne voulait pas éliminer l'itinérance.
L'itinérance,
en
parce
fait.
Qu'il voulait recevoir des subventions.
Oh, God.
Parle à Éric Boulay de l'Aube-Rivière ou à d'autres organismes. D'ailleurs, on va avoir Benoît Côté, justement, qui est directeur d'un regroupement d'organismes, qui s'en vient dans quelques minutes nous en parler. Voici la défense de Sam Hamad par rapport à son candidat sur nos ondes ce matin, dans Marceau le matin.
Qui habite là. Ouais. En fait, c'est un gars qui est frustré, comme la majorité des citoyens de Saint-Roch. Il est frustré.
C'est un homme d'affaires.
C'est un homme d'affaires. Il y a un restaurant là. Et il a eu des problèmes dans son restaurant. Lui, là, il a souffert de ce qui arrive à Saint-Roch. Fait que c'est un être humain. Frustré, il a sorti ce qu'il pensait sans faire un filtre.
C'était à Sam Hamad de regarder son candidat avant, de le préparer et de dire « Ouais, c'est-tu ça? On va laisser faire. »
Mais c'est parce que c'est ça. On comprend le vécu là, de M. Wu. C'est juste qu'à un moment donné, si ton vécu fait en sorte que tu sors des propos comme ça, qui sont déshumanisants, je pense, envers les personnes itinérantes, ben est-ce que tu veux vraiment présenter quelqu'un comme ça dans ton équipe? Donc là, ça vient poser la question sur comment on filtre les candidats dans l'équipe Hamad. Est-ce que c'est des propos avec lesquels on est d'accord? Est-ce qu'on approuve ces propos-là? Puis on a bien vu que M. Hamad ne les approuvait pas, en fait. Pendant le point de presse, dans le fond, là, ce que Napoléon veut dire, c'est ça. Là. On le voyait bien qu'il n'était pas à l'aise avec ça. Mais là, ça nous amène à penser à la campagne de Sam Hamad. Il n'y a pas besoin de d'autres tuiles, Sam Hamad, présentement. Là.
Ouais, c'est
ça. Sa notoriété, c'est beaucoup là-dessus que sa campagne est basée. T'es pas dans un mode où c'est parlez-en mal, parlez-en bien, là, comme par exemple d'autres partis qui essayent des fois d'avoir de l'attention médiatique, etc. Ils devraient beaucoup plus axer sur la crédibilité. Puis c'est sûr que quand on entend des choses comme ça, surtout quand tu présentes un candidat dans Saint-Roch, il y a combien d'organismes dans Saint-Roch qui travaillent? Puis là, tu as un candidat qui sort puis qui les envoie promener.
Ben, c'est surtout l'enjeu principal du quartier. C'est l'enjeu principal aussi de la candidature aussi de Bruno Marchand. C'est vraiment ce qui est prôné en termes de devoir gérer ici dans la ville de Québec. Et c'est là où mon commentaire, je le trouve un peu... Je trouve que Sam Hamad donne raison sur l'émotivité de la chose. Quand tu t'en vas en politique, ou dans ta vie en général, quand tu es trop collé sur quelque chose, il faut que tu prennes un pas de recul. Il faut que tu ailles parler à des gens qui le vivent autrement, qui le pensent autrement, juste pour te réaligner. Puis je pense que peut-être cette candidature politique-là aurait été un peu à gérer, à discuter. Toi, c'est quoi ton opinion? Où est-ce que tu veux te rendre? Parce que c'était sûr que tu ne peux pas passer à côté de l'enjeu de l'itinérance quand tu te présentes dans Saint-Roch.
Avant qu'on termine le caucus avec des textos, parce que ça fait énormément réagir, on a des excellents textos. Antonine, Sam Hamad a-t-il voulu faire trop différent des autres partis puis il s'est planté?
Ben moi, pour l'instant, je vois pas les fruits là, de cette stratégie-là d'essayer... En fait, je trouve que c'est intéressant aussi des fois de se dire, bon... Est-ce qu'on veut toujours des campagnes qui sont léchées avec le message qui est hyper formaté? C'est correct. C'est juste que quand je regarde ce qui s'est passé, par exemple, avec ce candidat-là, il n'y en a pas de plus. Il n'y en a pas d'avantage là-dedans. Quand tu veux démontrer une crédibilité puis que tu vas gérer la ville, ça donne l'impression qu'il y a de la difficulté à gérer sa campagne.
Donc, son équipe.
Donc, j'ai pas... Puis tu sais, les autres, les jeux d'eau puis tout ça, c'est pas grave, OK? Ça serait arrivé à n'importe qui. C'est comique, c'est pas grave. C'est juste l'accumulation de toutes les gaffes, de toutes les tuiles qui ont tombé sur la tête avant même le début de la campagne, ça donne une impression de désorganisation.
Puis est-ce que tu penses que c'était vraiment organisé, Antonine?
De quoi?
Bien, tout ça avec son programme qui prend du temps à arriver, le moment où il a annoncé sa candidature.
Non, je pense pas que c'est organisé. Je trouve que c'est désorganisé.
Oui, tu dis ça semble désorganisé, mais il y a beaucoup de gens qui nous parlent, qui trouvent tout simplement que c'est quelqu'un qui semble s'être envoyé en politique avec sa notoriété, mais pas nécessairement de plan. Puis dans le choix des candidats ou dans le choix de ce qu'ils nous annoncent pas, je mets en parenthèse en ce moment, il y a comme un genre de conclusion là, qui s'amène qui peut être très, 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 très négative pour la suite des choses.
Bien, moi, je pense que M. Hamad, c'est un politicien qui a de l'expérience et il a rencontré beaucoup de gens avant de se lancer puis il a réfléchi à quand même pas mal d'enjeux. Moi, je pense pas qu'au niveau je pense pas qu'il a sous-estimé ce que ça allait être pour sa vision, pour le programme, etc. Mais dans l'exécution, c'est comme s'il y avait de l'amateurisme que on accepterait peut-être de quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais devenant quelqu'un qui a de l'expérience, c'est un peu étrange.
Par texto, je veux féliciter une auditrice qui dit « Moi, j'ai été itinérante de 19 à 23 ans. Ça fait 3 ans que j'ai une vie stable, puis je ne retournerai pas comme itinérante jamais. Félicitations de t'en être sortie. » Pascal, qu'est-ce que tu as retenu par texto?
Énormément de choses. bon, entre autres, les politiciens sont déconnectés, sont restés pris dans la pandémie, mais si on évoque l'itinérance, il dit « Il n'y a pas à mesurer les nouveaux paramètres de l'itinérance, c'est certain. » Quelqu'un également qui dit « Bon, moi, dans mon cas, je ne comprends pas comment ça s'est passé pour ces commentaires-là. Ma sœur est policière à Montréal et c'est très difficile de les sortir de la rue, effectivement. Les dépendances, la santé mentale, c'est la principale raison de ce problème. Il y en a beaucoup qui apprécient ce style de vie-là, qui sont bien là-dedans, d'accord, mais je crois qu'il y a justement des organismes pour les entourer, les encadrer. La principale impression, c'est leur sécurité. » Bien d'accord avec les propos dits par votre invité, ça doit être toi, Santo, par rapport à comment tu parlais d'itinérance. Clairement, ce qu'on fait pour les itinérants, ça fonctionne zéro. Il y en a, on dirait qu'ils ne veulent pas s'aider. Puis là, c'est une prétention de croire d'un auditeur. Ouais. Pour certains, ils disent ils volent, ils brisent, ils font peur aux gens, ils consomment drogue, alcool. Bon, ils se lâchent aussi côté besoins personnels et naturels un peu partout. Et on dit c'est pas simple. Fait qu'on voit qu'on a un peu les deux discours. Là. Celui qui est plus émotif, qui est un peu rapporté par M. Hou, puis celui qui est plus dans la conscience de tout ce qui est santé mentale en arrière de ça.
Puis moi, je termine avec cette portion du caucus Iaccarini, que je le rappelle, est en onde du lundi au jeudi à partir de midi. Marc qui nous écrit « C'est la première fois que je vous écoute le midi. Mon Dieu que ça manque de genre de discussion-là dans les médias. De la nuance, tous les côtés de la médaille, etc. Merci et bravo pour ce que vous faites. » Hey, c'est-tu pas le fun de finir avec ça, un bon petit commentaire de Marc? Merci, Marc. C'est très apprécié. Oui, on essaie toujours de démontrer les deux côtés de la médaille, puis on essaie toujours d'être le plus juste possible et le plus conséquent. Antonin Iaccarini, on se garde le sujet de l'éducation dans le parking, comme j'appelle?
Absolument, on aura le temps d'en parler.
Ouais, exactement, ça va continuer à brasser en éducation. On parle beaucoup de couples là, qui font en sorte qu'il y a des activités d'enlever dans les écoles, mais moi, coudonc, je le vis pas à l'école des sentiers avec mon Edou.
Tant mieux.
Pas pantoute. Le football roule à plein régime, les activités roulent à plein régime. Donc, à voir là, ceci dans le futur. Merci, Antonine, pour cet excellent caucus, Iaccarini.
À demain.
On se parle demain. On fait une courte pause et par la suite, Benoît Côté vient s'installer, un spécialiste en itinérance à Québec, justement pour revenir sur les propos de M. Napoléon Wu. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
On en jase sur les ondes de Boulevard 102 chaque midi de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. À la météo, préparez-vous à quelques averses en après-midi. C'est 17 degrés. 23 degrés demain, possibilité d'averse à 30 % et 21 degrés, alternance soleil et nuages pour mercredi. Je lève mon chapeau à Alexandra, c'est l'auditrice qui nous a écrit pour dire « Je suis sorti de l'itinérance, j'ai été en itinérance de 19 à 23 ans. Ça fait 3 ans que j'en suis sorti, j'y retournerai pas. » Et Pascal, Alexandra nous a même offert de venir faire un témoignage en nombre.
Ce serait vraiment le fun de la recevoir.
Ça.
Ouais. Félicitations.
Félicitations de prendre son courage à deux mains.
Puis tu sais, il y a plein de questions. J'ai été allée visiter l'Aubrivière il y a quelques années, puis j'avais fait un vox pop sur la raison du pourquoi ces gens-là étaient là. Puis des fois, tu as le préjugé de la consommation qui vient assez vite là, dans les réponses des citoyens qui ne le vivent pas. Mais là-dedans, là, tu as une personne qui a eu un cancer, qui était mal assurée.
Ah, ouais.
Tu as une personne qui a vécu une séparation.
Tu as
des gens qui vivaient de paye en paye, puis qui ont une multitude de problèmes économiques qui est arrivé.
Oui.
Vient après peut-être consommation pour oublier ces problèmes. Tu sais, ça vient avec tellement de trucs. Puis des fois, c'est l'enjeu de l'enfance.
Mm-hmm.
Dans quel nid t'es né? Si tu as une douillet, si tu as un nid où tu as payé des affaires vraiment vite, ça t'a mis dans la merde financièrement. Il y a plein d'affaires là-dedans.
Plein de choses. Circulation, Pascal?
Oui, juste un petit clin d'œil à ce qui s'est passé sur Félix Leclerc Est. L'accès par le boulevard Henri Bourassa, ça a été partiellement entravé. Il y avait une panne. C'est résorbé, mais ça ralentit le secteur.
On a le plaisir de recevoir Benoît Côté, directeur général de l'organisme Pêche, qui travaille justement avec des personnes en situation d'itinérance. Benoît, comment vas-tu?
Très bien, très bien. Merci de l'invitation.
Hey, merci à toi d'être présent aujourd'hui. Benoît, pas le choix, on veut revenir sur ces déclarations-là du candidat de Sam Hamad de Leadership Québec, Napoléon Wu, commerçant dans le secteur, restaurateur, qui mentionne que l'itinérance est devenue un mode de vie. Tu en penses quoi?
Je suis évidemment pas d'accord avec cette affirmation-là. Je trouve que c'est un peu malheureux d'identifier les personnes itinérantes à des gens qui profitent d'un système. Et quel système? C'est pas la vie rêvée, là, être itinérant. C'est pas la vie de millionnaire. Tout au contraire, c'est de la survie. C'est parfois dangereux. C'est parfois stressant, souvent dans la misère sociale, avec d'autres personnes qui vivent de la misère sociale. Donc, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse se parler, qu'on ait un dialogue là, différent entre nous. Je ne sais pas, je pense même pas que M. Hamad soit d'accord avec ces propos-là. D'ailleurs, il a corrigé un peu les propos de M. Wu.
Il semble un peu dérangé, inconfortable,
vraiment,
du moins, dans ce qui a été dit.
Il est intervenu dès le point de presse ce matin également. Là, il a tenu justement à rectifier certains propos.
Ça se peut-tu que M. Wu, qui est commerçant de la base ville, donc il a toutes ses économies probablement dans son projet, qui essaie de faire survivre tout ça depuis la pandémie et autres. Même avant la pandémie, je me rappelle de lui dans les médias de couvrir le terrain, puis qui est bien contre les centres d'injection supervisés, dont un qui est supposé s'instaurer à côté de son commerce. Puis ça se peut-il qu'il soit très émotif quant à cette situation-là, un peu le nez collé sur les impacts sur son entreprise et donc sa vie financière, sa vie personnelle. Ça se peut-il que ce soit pas un discours de politique à cause de ça?
C'est possible, mais c'est évident que c'est pas un jardin de roses tout le temps puis un pays de licornes. Intervenir en itinérance, on le sait, là, d'abord, elle augmente constamment. Donc, c'est un phénomène. Il y a des nouveaux visages dans l'itinérance. Puis, Pascal, ce que tu disais tantôt est très vrai. Là. La question de la consommation est reliée très, très souvent à la question des traumas multiples que les gens ont vécu dans l'enfance. 80 % des gens qu'on accompagne à Pêche ont un diagnostic de trauma multiple. Donc, c'est des enfants de la DPJ, souvent. C'est des gens qui se sont retrouvés à la rue à 17 ans et demi, 18 ans.
Avec les affaires d'un sac de vidange.
Parce que quand c'est fini, quand tu as 18, c'est fini avec la DPJ.
Oui, puis souvent, ils deviennent les gens qu'on accompagne à Pêche 10 ans puis 15 ans plus tard. Donc, la question de la toxicomanie, c'est une question complexe, mais elle est reliée à la souffrance. Tu sais. Puis bon, jusqu'à preuve du contraire, la toxicomanie, c'est une maladie. Donc, des gens qu'on accompagne, nous autres, 50 % ont un problème de santé mentale dans la rue. La toxicomanie, c'est un pourcentage très élevé des personnes. Donc, on se retrouve dans l'itinérance aussi pour des questions économiques. Vous l'avez dit tantôt, Pascal, là, il y a la question de plus en plus, on voit, là, il y a une crise du logement. Il y a la question aussi des revenus. Il y a des gens qui vivent dans leur auto jusqu'à temps qu'ils se retrouvent dans la rue. Là, tu sais, ça existe vraiment. On est au courant de situations comme ça régulièrement. Donc, il y a un enfant actuellement sur 4 ou 5 au Québec qui ne mange pas à sa faim. Donc, on a une situation économique là, qui pousse les gens vers la précarité puis vers l'itinérance.
Ce que tu nous dis, c'est que c'est multifactoriel, l'itinérance. Et en effet, je veux revenir sur le centre de supervision, centre d'injection supervisée. Oui. Parce que M. Wu a dit « ça n'a pas d'allure, on les incite à se droguer ». Moi, je me souviens au début des années 2000 avoir travaillé, avoir géré le parc Saint-Roch, donc l'animation en été. Il n'y avait pas de centre de supervision, il n'y avait pas de centre d'injection supervisé et je ramassais facilement une trentaine de seringues à chaque matin. Une seringue où des enfants auraient pu piler dessus si je ne faisais pas le nettoyage. Ça a cette utilité-là, ce centre?
Oui, ça a cette utilité-là. Puis, tu sais, de plus en plus dans les centres de consommation, il y a des travailleurs, il y a des gens qui s'y rendent pour avoir des seringues propres puis faire analyser leurs produits. Tu sais, c'est pas juste des. Regardez la situation à Sept-Îles. Il y a de plus en plus de gens qui gagnent 100 000 par année. Il y a une surconsommation à Sept-Îles de drogue. Donc, c'est pas juste les personnes itinérantes. Mais pour revenir aux personnes itinérantes, bien, ça fait un peu. Ça permet d'éviter des surdoses, ça permet d'éviter des morts parce que l'enquête de la presse, la semaine passée, démontrait qu'il y a 108 personnes qui sont mortes dans la rue au Québec, soit d'hypothermie, soit de coups de chaleur, soit de noyade, de suicide, etc.
Puis Benoît, on fait de l'accompagnement pour tenter de les sortir, justement, de ce vice-là.
Ben oui, c'est ça. Écoute, c'est certain que quand tu as vécu des traumas multiples, tu as 1000% de chances de plus d'être toxicomane. Fait que ça, c'est la petite sœur de la misère, la toxicomanie. Souvent, tu sais, tu rentres là-dedans, pas pour le fun, parce que tu veux geler ta souffrance, tu veux ne pas sentir ce que tu vis. C'est pas une partie de plaisir dans la rue. Là.
Je me demande si, tu sais, on cherche tout le temps, comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut faire une différence, comment est-ce qu'on... Puis souvent, Jeff et moi, on en parle, mais il y a un noyau à tout ça. L'iceberg, là, ce qui est en dessous de l'eau est beaucoup plus important, puis ça vient, puis on se rend compte, avec les témoignages de tous et chacun, que l'enfance joue un énorme rôle là-dedans. Est-ce qu'on est une société qui doit revoir comment on traite nos enfants en général pour essayer d'évacuer un pourcentage de gens qui se ramassent dans une situation où la santé mentale ne suit pas et où la possibilité de la rue et pointe au bout de l'année.
Moi, je n'ai pas d'enfant personnellement, disons que j'en ai pas eu, mais évidemment, quand on regarde la question, la situation de la DPJ, là, actuellement, c'est un gros problème, la DPJ, depuis 10 ou 15 ans. Il y a de la violence sexuelle, il y a de la violence physique qui est faite aux enfants, de la violence psychologique. C'est clair que ça, c'est des facteurs qui font en sorte qu'on peut facilement, à 18-19 ans, là, t'sais, glisser vers l'itinérance. Mais c'est certain que la question itinérante, c'est une question qui devrait concerner tout le monde, en tout cas. Et les parents et la société civile. Nous autres, on a eu l'appui d'une famille qui s'appelle la famille Choquette, et puis on a eu une grosse levée de fonds qui va nous permettre d'avoir une deuxième équipe pour sortir les gens
d'ici. On les a reçus la semaine dernière.
Oui, exactement.
C'est super intéressant. C'est toute une pratique là, de sortir les gens de la rue, mais à date, avec une équipe, depuis 2015, on a sorti 400 personnes de la rue qui ont 5, 10, 15 années d'itinérance. Là, avec la deuxième équipe, on va sortir par année 50 personnes de plus. Donc, je pense qu'il faut viser vraiment là, des nouvelles façons, je pense, de réussir à diminuer l'itinérance de 50 % à Québec, voire 80 % voire 100 % éventuellement sur 10-15 ans. Ça serait intéressant. Mm-hmm. Je pense qu'on est une société qui a les moyens de le faire, sauf que ça prend une volonté politique, ça prend un plan, ça prend des budgets. T'sais, parce qu'actuellement, une personne dans la rue, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Union des municipalités, ça coûte 72 500 $ à peu près par année par personne itinérante en coût de porte tournante, en coût de judiciarisation, en coût d'incarcération. Ça, pour 1000 itinérants à Québec, ça fait 72 millions presque perdus dans le beurre. Là, t'sais.
Je termine l'entrevue avec deux questions. La première, est-ce que justement tu es frustré de voir qu'il n'y a pas assez de budget ou il n'y a pas assez de volonté politique?
Ben, le manque de budget au communautaire, ça fait 30 ans qu'on revendique.
Ouais, j'ai travaillé dans le communautaire une quinzaine d'années, je comprends.
Ça fait à peu près 30 ans qu'on revendique de meilleurs budgets. Puis je pense que c'est un travail, puis ça demande des compétences pour sortir les gens de la rue. Quand on identifie le communautaire à des facilitateurs de vie dans la rue pour avoir du fun, il y a vraiment une grosse erreur de méconnaissance de ce que fait le communautaire avec les gens dans la rue, pour les sortir de la rue. On a des compétences, on a des diplômes, on a des bacs, on a des decks, on intervient auprès des personnes. Puis la double problématique santé mentale et toxicomanie, ça demande une expertise particulière là, pour travailler avec ça.
Et ma dernière question, est-ce que tu es heureux d'avoir vu justement le milieu politique se souder après les commentaires de Napoléon Houle? Là, je pense notamment là, à Bruno Marchand qui est candidat pour un deuxième règle à la mairie de Québec, ou même Claude Villeneuve, Jackie Smith, les autres partis politiques, dans le fond.
Bien sûr, c'est rassurant, mais moi, je ne suis pas fermé à discuter avec M. Wu. Éventuellement, je l'invite publiquement à venir voir ce qu'on fait à Pêche. Puis, sincèrement, je pense que ça pourrait un peu atténuer ses craintes dans le quartier. C'est bien, bien évident que tous les acteurs se mobilisent pour essayer de diminuer l'itinérance. Il y a de l'énergie là-dedans. Je pense que, tu sais, on ne peut pas mettre les personnes qui sont à la rue sur un bateau, les envoyer dans l'océan Atlantique, puis ils vont disparaître. Là, oh.
Mais c'est intéressant, si vous le contactez personnellement.
Oui, venez nous parler.
Selon la réponse, en fait, peu importe la réponse, contactez-nous. Mais ça peut être très intéressant. C'est là où il faut être dans le discours, dans la discussion.
Un dialogue, puis je ne suis pas fâché, mais je veux dire, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir publiquement, merci, nous permettre aussi de discuter d'enjeux sociaux.
Vous n'êtes pas fâché, mais vous êtes inquiet du discours.
Bien, c'est préoccupant parce qu'évidemment, on n'avance pas quand on a un discours là, qui freine toutes les initiatives. Là, puis on parle vraiment d'un problème de santé publique très important à l'itinérance. Moi, je suis de ceux qui disent que ça prendrait une commission transpartisane, comme on a fait pour l'aide médicale à mourir, régler le problème d'itinérance au Québec. Je vois jusque-là. Là. C'est un problème qui est tellement important qu'on devrait mettre les énergies, on devrait mettre ensemble tous les acteurs de la société pour pouvoir, tout parti confondu, régler, diminuer, en finir avec la question de l'itinérance, là, éventuellement.
Benoît Côté, directeur de Pêche, directeur général de Pêche, un organisme qui travaille auprès des itinérants qui ont sorti 400 itinérants de la rue dans les dernières années. Benoît, continuez votre excellent travail. Merci pour ce que vous faites pour notre société.
On ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec 8 organismes communautaires.
Mais félicitations, merci infiniment pour le travail que vous faites pour notre communauté. Puis continuez de rendre la vie meilleure des gens au centre-ville de Québec, même si ça ne paraît pas tout le temps.
Merci beaucoup.
Fait plaisir. Merci à Benoît Côté. On saute d'un sujet à l'autre, vous le savez, dans l'émission On en jase. Et on s'en va rejoindre immédiatement un nouvel intervenant que j'entends régulièrement sur les ondes de LCN dans l'émission de Mario Dumont et que je trouve tellement intéressant. Il enseigne le droit international à faire et il est également un spécialiste des contrats. Donc, on va parler du fameux contrat de sa clique avec lui. C'est Gilles Levasseur de l'Université d'Ottawa. Monsieur Levasseur, ça va bien?
Toujours bien.
Excellent. Regardes-tu le dynamisme, Pascal?
Je sais, je l'ai appelé pendant l'entrevue, puis je chuchotais, puis il était déjà en feu.
Exactement. Mathieu Levasseur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Ben, c'est toujours le plaisir de faire ce genre de discussion-là, parce que dans notre société, on a besoin de faire le point puis de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pas facile avec toute la quantité d'informations qui est envoyée, vous savez, dans les différents réseaux, à savoir où est-ce qu'on est rendu puis qu'est-ce qu'on doit faire maintenant.
Exactement. Monsieur Levasseur, je commence avec cette question-ci. Est-ce que Karl Malenfant, qui a dit à la commission Galland, j'ai jamais vu ça, moi, les soumissions, avant que le contrat soit octroyé et qui s'est envoyé la soumission de Deloitte sur son courriel personnel, est à risque, justement, d'autres accusations après son passage à la commission Galland?
Mais ce qui arrive, c'est qu'au départ, il faut savoir c'est quoi son implication. Et ça a été quoi, justement, les éléments qu'il aurait pu retenir pour des considérations personnelles? Vous savez, il y a une différence entre le travail, puis si on ne fait pas le travail correctement, c'est une chose. Et la deuxième des choses, c'est à voir si on fait des choses au travail qui nous amènent un bénéfice personnel, qu'il soit financier ou autre, bien là, c'est une deuxième question qu'il faut regarder. Et c'est là le danger, à savoir, quand on donne une boîte complète de plus de 600 documents, et on oublie certains documents qui sont critiques dans toute son argumentation, bien là, on se pose des questions. Et la beauté de cela, c'est que ce matin, l'avocat de M. Malenfant a voulu éclaircir tout le sujet pour qu'on puisse être capable de comprendre où est-ce qu'on s'en va pour les prochaines étapes.
Oui, Karl Malenfant était un petit peu moins fierpette aujourd'hui devant la commission, je dirais. Il était beaucoup plus calme et tempéré. Comment vous voyez justement cet événement-là? Parce que c'est majeur, là, ce qui est arrivé vendredi dernier où il a dit « Ouais, je suis étourdi que le commissaire Galland a renvoyé son avocat et M. Malenfant à regarder l'article 2 par rapport au parjure. »
Bien, c'est parce que ce que le commissaire a fait, il a fait son travail de dire « Écoutez, moi, je suis ici pour les faits. Je fais une enquête. » Et je fais des recommandations. Je ne suis pas ici dans un contexte d'un tribunal où est-ce que je peux imposer une sanction. Sauf que quand je vais mettre les choses dans mon dossier, il est certain que vous devez comprendre qu'il y a des choses qui vont dire que soit que je suis d'accord ou pas d'accord, soit que je n'ai pas compris, ou soit que j'ai un doute sur la crédibilité du témoignage. Ça, il va le faire. Ce qui arrive, c'est que ce qu'a fait le commissaire, c'est de dire à l'avocat, aide ton client. C'est ton client, va lui parler. Explique-lui les règles de droit. Parce que même si ce n'est pas devant un tribunal, c'est une commission d'enquête où est-ce que l'individu a fait serment, il a prêté serment. Donc, si la version qu'il nous donne A, elle est contraire à ce qu'on voit dans B, et c'est une majeure différence, bien, on lui dit, c'est temps peut-être que tu réfléchisses avant de nous renvoyer cela une autre fois.
Est-ce que vous croyez tout ça? La question est aussi simple.
Mais l'affaire, c'est que il est certain qu'on peut des fois se tromper. On peut des fois oublier. Le problème, c'est quand vous avez des courriels qui sont à votre adresse personnelle, là, c'est plus le bureau. Là, c'est comme à l'extérieur du bureau. Vous voyez, c'est en lien avec le bureau, mais là, on se pose la question, oups! Là, ça veut dire que là, il y a une relation beaucoup plus privilégiée, beaucoup plus d'actualité, où, vous savez, où est-ce que les gens peuvent se parler facilement. Puis quand on se parle par prénom, bien là, ça accentue encore plus cette relation de proximité. Donc, ce qui fait en sorte que l'individu doit être capable de justifier pourquoi est-ce qu'on est rendu à ce genre de relation-là, de discussion, puis des documents, quand il va dans son chalet, que ça arrive directement dans son courriel, tu sais, son courriel personnel, là, tu te dis, oups, c'est plus là, la même démarche que si c'était un appel d'offre, ou est-ce que, bref, on met ça ouvert à tout le monde, puis on s'organise pour que ça soit bien organisé et bien dit. Puis bien analyser.
Oui, ça semble pas être du travail supplémentaire qui s'est envoyé par courriel.
Oui, travail supplémentaire ou pas, vous savez, à un moment donné, quand ça va chez toi, là, c'est plus la même histoire. C'est parce que tu aurais dû prendre l'adresse, soit de l'employeur, si tu peux pas le faire. Tu dis, bon, ben, on va le faire lundi prochain, il n'y a pas d'urgence, là. C'est pas comme s'il y avait un feu, il fallait le régler en fin de semaine. Vous savez, c'est ça qu'il faut saisir, là. C'est ça que le commissaire a commencé à avoir des doutes. Il se dit, ça sent pas beau, cette histoire-là, parce que si tu dis que tu fais ça chez toi, dans ton chalet, OK, c'est excellent, mais si tu l'ordinateur, non, ben là, on dit, c'était quoi l'urgence? C'est ça qu'il doit se dire dans sa tête pour être capable d'avoir d'avoir une crédibilité là, de tout l'événement puis de comprendre où est-ce qu'on s'en va.
Oui, puis les textos à Mado et Loulou par la suite qui dit « Ah, j'ai lu le document depuis vendredi soir, c'est très intéressant » et que soudainement, il y a 800 000 heures qui sont retirées là, de la soumission de SAP. Là. Ça laisse présager à plein de choses.
Bien, c'est qu'il y a ça, mais aussi, il y a une chose qui est importante que souvent, on ne soulève pas. C'est au départ, toute la question des avocats qui ont rédigé le contrat initialement. Sur quelle base ils se sont basés pour rédiger le contrat? Vous savez, quand vous avez des grandes entreprises comme IBM qui travaillent avec ses filiales, ce sont des machines où est-ce que les autres ont des avocats, là, où est-ce qu'ils sont spécialisés dans toutes les clauses, puis toutes les questions de savoir comment s'en sortir s'il y a telle situation qui se présente. D'accord? Alors là, il faut se poser la question, comment est-ce qu'ils ont fait le travail? Sur quelle base? Qui a vérifié ça? Puis comment est-ce qu'on peut dire que tout était correct? Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est de se dire, quand on arrive, on me dit, puis moi, j'écoute ça, puis je me dis, on a embauché deux excellentes personnes. Je suis entièrement d'accord, aucun problème. Mais dites-moi pas qu'au Québec, c'est les deux seules personnes qui auraient pu faire le travail. Vous avez des gens très compétents au Québec. On ne réalise pas la qualité des avocats, la qualité des gens en technologie. Comment ça se fait qu'on n'a pas été plus large pour aller chercher d'autres possibilités pour être capable d'aller finir ce contrôle-là à l'intérieur des normes? C'est ça qui vient aussi, vous savez, nous questionner. Vous voulez me dire qu'il y avait juste deux personnes qui pouvaient faire la job? Prochaine question.
J'adore. Est-ce que vous êtes satisfait de la commission Galland jusqu'à présent parce que le commissaire avait été très critiqué au départ pour ses liens de proximité avec Sonia Lebel? Mais honnêtement, moi qui regarde ça de l'extérieur, qui n'est pas un spécialiste comme vous, monsieur Levasseur, je trouve que le commissaire Galland pose vraiment les bonnes questions et que les procureurs font un excellent travail de recherche. Suis-je dans l'erreur?
Non. Au départ, il se tient debout. Okay? C'est une commission d'enquête, il se tient debout, puis il pose les questions, puis quand ça marche pas, il le dit, écoutez, là, ça sent pas bon, voici ce qu'on doit faire. Ça, c'est la première des choses.
Comme il a fait avec Carl Malenfant quand il lui a dit, vous répondez aux questions, puis moi, je fais les liens.
Absolument. Puis il a même fait ça avec les ministres, mais d'une façon polie. Puis la raison pourquoi est-ce qu'il fait ça d'une façon polie avec les ministres, c'est parce que les gens sont arrivés là, ils l'ont expliqué à leur façon. Puis là, t'es pas là pour essayer de leur taper dessus. Tu leur dis, OK, d'accord, on va voir dans son rapport comment est-ce qu'il va prendre tous ces détails-là puis faire la recommandation, oui ou non, sur telle chose. Mais il n'a pas été agressif. Puis si on écoute les procureurs, ils ne sont pas agressifs. Ils posent les questions, ils répètent les questions à l'occasion, reviennent sur le sujet, mais il n'y a pas cette notion-là d'attaquer. Puis ça, c'est archi important. Parce qu'on veut que les gens témoignent de façon libre et sincère. Puis ça paraît simpliste, mais quand tu es dans une situation de pouvoir, tu peux facilement, comme avocat, tu sais, quand vous regardez les tribunaux, là, comment ça se passe dans certains dossiers, ça peut être raide. Il n'y a pas cela. Puis la troisième des choses, tu vois qu'ils sont arrivés préparés, puis c'est pas juste une seule personne, c'est différents avocats qui ont différents rôles et mandats, puis ils se partagent les rôles. Donc, ce qui arrive, c'est qu'un n'empiète pas sur l'autre, mais ils ont tous la capacité d'avoir été préparés pour la job qu'il doit faire cette journée-là.
Ah, clairement. On le vit avec le procureur qui s'occupe de Carl Malenfant. Même principe pour la procureure qui avait interviewé Denis Marcellet. Gilles Levasseur est enseignant en droit international, affaires et contrats publics. Il est à l'Université d'Ottawa, un chroniqueur régulier dans l'émission de Mario Dumont sur les ondes d'LCN. Merci, M. Levasseur, pour votre temps ce midi. Puis au plaisir de se reparler, je peux vous refaire signe?
Absolument, n'importe quand.
Magnifique. Merci beaucoup, M. Levasseur. Bonne journée.
À la prochaine. Au revoir.
Au revoir. Quel dynamisme incroyable, cet homme, je l'adore.
En plus, c'est des gros dossiers d'analyse. Oui. C'est de la gestion quand même assez importante. Là, on en parlait plus de l'octroi de contrat, l'analyse de ces contrats-là. La prochaine fois, ce serait très intéressant de l'entendre aussi sur le droit international. Écoute, ça va faire le pont sur bien des sujets qu'on aborde ici dans Jase.
Clairement.
On parle d'immigration en ce moment, mais on parle d'affaires, on parle d'économie, les tarifs. Écoute, ça englobe tout.
Ça englobe tout. On vient de se trouver un bon
collaborateur. Hein,
oui, exactement. Pascal, avant de passer à la pause, parce qu'après la pause, on va parler avec Luc Laliberté, justement, ex-enseignant en histoire de l'Amérique des États-Unis au Cégep Garneau et chroniqueur, justement, sur nos ondes. Je veux te faire entendre deux discours complètement différents. Le premier, Erica Kirk, malheureusement la veuve de Charlie Kirk, qui a été assassinée, où elle dit pardonner au tueur de son mari.
Young man, on the cross, our Savior said, that man... I forgive him.
On sent très bien l'émotion chez Erica Kirk, mais malgré toute la douleur qu'elle vit, elle pardonne à l'assassin de son mari. Voici maintenant le discours de Donald Trump, président des États-Unis.
Truly was. He was a missionary with a noble spirit. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent.
Alors, pendant qu'Erica Kirk pardonne à l'assassin de son mari et tente d'unifier l'Amérique autour d'un seul et unique message qui est l'amour de son prochain, Donald Trump mentionne « Je déteste mes opposants et je fais tout pour les anéantir. » C'est le président des États-Unis.
Je suis très sensible à ça. Moi, la façon de communiquer, la façon de rallier, c'est le point que je martèle depuis l'élection de Donald Trump. Je le trouvais revanchard dans cette nouvelle envie d'être président. On lui a donné le mandat. Démocratie, c'est correct, j'ai tout le respect. J'ai du respect pour certains de ses accomplissements aussi. Je n'ai aucun respect pour le leadership appliqué en ce moment. Il va falloir que ça change.
Exactement. Et pour moi, c'est un leadership extrêmement problématique à l'heure actuelle.
Tu comprends pourquoi je me battais dans mes discours, mes débats dans les dernières semaines?
Où on est dans une crise politique majeure, mais pas juste politique majeure, une crise sociale, majeure aux États-Unis. Et c'est justement de ceci qu'on va parler avec Luc Laliberté.
J'ai hâte, là, parce que je veux savoir pourquoi il l'alimente. C'est quoi son dessin? Là? Je parle pas de dessiner un dessin. Son dessin, son but à
pourquoi
Donald Trump.
Oui, il alimente ça. En effet, quel est l'objectif d'alimenter ça en pleine funéraille de Charlie Kirk, alors que, je le répète, la veuve de Charlie Kirk lance comme message « J'ai pardonné à l'assassin ». Et Charlie Kirk, on se le rappelle, oui, c'est un gars qui avait des idéologies de droite conservatrice, mais il permettait à la gauche de s'asseoir à l'avant de lui et d'avoir une discussion. Ce que Donald Trump ne permet pas du tout en disant « j'anéantis mes opposants, je les déteste ». Avant qu'on passe à la pause, Pascal, il y a plusieurs manchettes importantes là, à mentionner à nos auditeurs.
Oui, il y a un écrasement d'hélicoptère en Beauce qui confirme le décès de l'homme d'affaires Louis Lessard, en fait. Cet homme d'affaires-là a guéri, bien connu dans la région de Québec. Là. Il a péri dans l'écrasement d'hélicoptère. Mm-hmm. C'est arrivé hier en Beauce. Et là, on vient d'avoir un peu plus d'informations comme quoi c'était autour de 12h45 dans le secteur rural de Saint-Séverin, près du rang Sainte-Marguerite et du mon radar. Il y a des témoins qui ont rapporté aux policiers avoir vu l'appareil qui volait puis disparaître à un moment donné. Puis après ça, un grand dégagement de fumée. On est arrivé, les secours, à localiser l'aéronef sur une terre. Incendie qui s'est déclaré après l'impact. Le décès du pilote aussi a été constaté sur place. C'est une nouvelle difficile là, aujourd'hui pour bien des gens. Donc, on pense assurément à la famille et aux amis de ces deux décès-là. Il y a une recherche au registre d'immatriculation des aéronefs civils qui va permettre de constater, oui, que Louis Lessard et son fils Loïc étaient propriétaires d'un hélicoptère de ce type-là. Alors, ça, c'est une nouvelle difficile.
Ah oui, non sympathie à la famille, il n'y a pas de doute.
Un autre dossier, en fait, à évoquer ce midi, le présumé auteur du meurtre de Lévis, survenu un peu plus tôt, là, pendant le mois, ne serait pas apte à comparaître. Alors, son avocate a parlé, maître Anne-Sophie Dagenais. Elle n'a pas pu parler à son client depuis son incarcération. Il refuse les rendez-vous, il refuse de s'adresser aux intervenants. Vincent Boulanger, c'est son nom complet. En fait, il aurait refusé de manger tellement que le personnel de l'établissement de détention de Québec a exigé son transfert. On veut l'envoyer à l'Institut universitaire de santé mentale de Québec, anciennement appelé Robert Giffard. Là. Mm-hmm. Selon des membres de sa famille, il y a un diagnostic de schizophrénie. Il refuse de prendre ses médicaments depuis un moment. Il a comparu par visioconférence aujourd'hui. On aura plus de nouvelles au courant des prochaines heures. Le procès civil de Gilbert Rozon fait aussi jaser. On lit dans la presse que la plaidoirie des avocats des plaignantes, là, c'est que c'est impossible que ce ne soit pas vrai ce que racontent les plaignantes. Je vous rappelle, on est dans les plaidoiries finales de ce procès civil-là du fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon. Ça a débuté lundi au Palais de justice de Montréal. Alors aujourd'hui, puis c'est pour l'aboutissement de ce procès fleuve de 8 mois, durant lequel il y a 11 femmes qui ont accusé Gilbert Rozon d'agression sexuelle et de viol. Et je termine avec une nouvelle là, qui vient vraiment de me shaker quand je l'ai lu. Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai vu des images associées au témoignage des parents. Il y a quelque chose de très nébuleux en ce moment, à Longueuil. C'est pas ici.
Oui, je viens de lire ça, moi aussi.
Mais là, tu as sûrement vu l'article dans le Journal de Québec. Il y a un peu plus d'images dans d'autres médias. Puis tu vois le père déchiré, là, anéanti. C'est normal parce que son enfant, son ado de 15 ans est décédé. C'est la police de Longueuil qui aurait tiré sur l'enfant de 15 ans. Et il dit, ben, c'était juste un bébé, donc on est extrêmement bouleversé. On a peu d'informations. Ce qu'on sait, c'est que hier, 15 heures, Noran Rizzi se trouvait avec plein d'amis dans un quartier résidentiel assez paisible et familial. Il est connu, ce quartier-là. Il est à l'angle des rues Monaco et Joseph Daigneault, pour ceux qui connaissent Longueuil. Mais bon, des circonstances qui doivent être éclaircies, mais il y a un agent de police qui aurait ouvert le feu à deux reprises sur l'adolescent de 15 ans, je vous rappelle. Il est tombé au sol. Il y a eu des manœuvres de réanimation qui ont été tentées, mais il est décédé. Et bon, on a essayé de rencontrer des voisins de la part du journal. Là, souvent, ça arrive. Ils ont été marqués par un détail en particulier. C'est la vitesse à laquelle le policier aurait tiré sur le jeune. Selon eux, il semblait coopératif auprès des agents. Mais là, ça, ce sont des rapports de voisins. Là. Nous, on attend énormément d'informations. Particulier.
Parce que à quel
là.
Point, dans le fond, la question qu'on se pose, c'est à quel point cet adolescent-là pouvait être menaçant pour les policiers.
Oui.
Pour qu'on dégaine dessus.
Puis, tu sais, pense-y, là, quand j'étais allée à Nicolette tester les armes en immersion à un moment donné, il me l'avait fait faire selon un simulateur. Fait qu'il y avait plein de simulations. Puis, je devais agir avec ce qu'il me disait, puis il l'adaptait, là. Un peu comme le livre dont vous êtes le héros.
Fait
là.
Qu'on te plaçait dans des situations inconfortables.
Exactement. Puis, je me rappelle, il y en avait une. L'assaillant, il courait vers moi avec un couteau, puis à chaque fois, il réussissait. J'arrivais pas à dégainer quelque chose. Mais, il fallait que j'aie la conscience de regarder les lieux. Est-ce que je sors le fusil? Est-ce que je sors, bon, la matraque? Est-ce que je sors rien? Est-ce que je sors... Il y a plein d'affaires. Le taser, tu te demandes pourquoi utiliser l'arme à feu en ce moment dans l'intervention. Mais là, on est dans l'opinion, mais assurément, on attend des réponses.
Ah, assurément, on attend des réponses. Et assurément que ça va faire partie là, d'une enquête du bureau des enquêtes
au BEI,
publiques.
Ça, c'est sûr, ça sent au
c'est clair, bureau indépendant, là, justement, des enquêtes publiques. Merci beaucoup, Pascal, pour ces manchettes. On fait une courte pause. Au retour de la pause, on parle justement des funérailles de Charlie Kirk hier en Arizona. Un stade rempli à pleine capacité, 65 000 personnes. Discours très réconciliateur de Erica Kirk, la veuve éprouvée de la mort de son mari, mais discours très revanchard de la part du président des États-Unis, Donald Trump. On en parle avec Luc Laliberté au retour de la pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase.
On en jase. 101. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk. Une propriété Leclerc Communication. Le midi, on en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Là, vous commencez à être habitué à l'émission On en jase. C'est notre quatrième semaine, Pascal. D'après moi, les auditeurs le savent.
On est vraiment en train de valser, là. Ça
exactement.
Fait,
là. Ouais, ouais. C'est fini, Marceau, le midi. C'est On en jase de midi à 14h avec Pascal CV et Jeff Fortin pour nous joindre 418-971-1021. On est disponible sur Twitch également, .tv/BLVD/FM. Notre application, meilleure façon de nous suivre, Boulevard 101 sur App Store et Google Play Store et la web radio sur blvd.fm.
Fallait qu'on en parle du meurtre du côté de Lévis. Oui. L'avocate de Vincent Boulanger, bon, celui qui est présumé tueur, en fait, d'Alain Dubois, meurtre du 11 septembre dernier, officiellement va devoir se soumettre à un examen psychiatrique. Ça vient de tomber, donc son avocate qui a réclamé cette évaluation-là. On veut déterminer si son client, qui a 48 ans, est apte à subir un procès.
Et quand je parle que le 418-971-1021, on lit tous vos textos et on aime vous lire et vous voir réagir, eh bien, Steve qui écrit « Ouais, c'est très malaisant le discours de Donald Trump hier lors des funérailles de Charlie Kirk et justement la meilleure personne pour nous en parler. » Luc Laliberté, ex-enseignant de l'histoire des États-Unis au Cégep Garneau, mais surtout chroniqueur maintenant politique américaine dans plusieurs médias ici au Québec. Luc, comment vas-tu?
Bonjour à vous deux. Je vais, écoute, égoïstement, en dehors du contexte global, je vais très bien.
Parfait.
C'est ce qui permet de jeter un œil sur des choses qui vont un peu moins bien.
Bon, on est content que tu ailles bien. Honnêtement, là, on va en prendre des gens qui vont bien parce qu'effectivement, ça vient un peu lourd
c'est
des
pas
fois.
Évident.
Oui.
Luc, dis-moi donc, est-ce que tu as vécu le même malaise que Steve, le même malaise que moi et Pascal, on a vécu en entendant Donald Trump parler que lui, il déteste ses opposants alors qu'Erica Kirk avait fait un discours rassembleur en pardonnant à l'assassin de son mari?
Écoute, on a eu quelque chose de très, très, très fort. Je pense que l'épouse, d'abord, de la conjointe, y est allée d'un message que son mari n'aurait pas renié. Donc, il a toujours dit, puis c'est ce que ses partisans, d'ailleurs, soulèvent, hein, qu'il voulait débattre, qu'il voulait discuter, mais qu'on peut s'asseoir, qu'on n'a pas besoin de cette haine, de la violence. Donc, je pense que la conjointe a porté ce message haut et fort. Maintenant, le président, malheureusement, oui, j'ai eu le même malaise que cet auditeur qui prend la peine d'écrire. Et c'est le même malaise que j'ai depuis longtemps sur ce point-là, pendant la présidence de Donald Trump, que ce soit la première présidence ou que ce soit ce deuxième mandat. Le président américain, et c'est une constante, on a eu des républicains et des démocrates, là, d'ailleurs, je couvre de plus près où j'enseignais la politique, ça a commencé sous Bill Clinton. Et la fin de Bush père et le début du mandat de Clinton, c'est là où on fait pas mal naître la période de polarisation dans laquelle maintenant, où on semble maintenant avoir atteint un sommet. Donc, cette polarisation-là, elle n'est pas nouvelle. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aller réécouter Bill Clinton, aller réécouter George W. Bush ou écouter Bush père. Chaque fois qu'il y a eu des crises, et malheureusement, il y en a des crises, il y en a des drames, il y a des tueries malheureusement trop régulièrement aux États-Unis, ces présidents-là, républicains et démocrates, ont toujours tenu à rassembler tout le monde dans les périodes les plus tendues. Mm-hmm. On prenait la peine d'assurer à tout le monde qu'on était le président de tous les Américains et pas le président de ceux qui ont voté pour moi ou qui ont voté pour un candidat en particulier. Et Donald Trump le fait, écoute, je fais un guess ou une tentative avec les gens qui sont à l'écoute, puis avec vous deux, retournez lire les souhaits de bonne année, de joyeux Noël, ou du Thanksgiving du président dans les dernières années, et trouvez-moi un moment où il ne termine pas des souhaits qui devraient être pour tout le monde par il prend la peine d'ajouter, même à vous, les woke, hein, ou même à vous, la nouvelle mouture de woke, en passant, ouais, c'est de radical left, hein, c'est cette gauche radicale. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, à part tous ceux que Donald Trump n'aime pas ou avec qui il est en désaccord, mais ça ne va pas habituellement avec la fonction. Mais on n'a pas une présidence habituelle. Donald Trump prend un malin plaisir à être tout ce que n'est pas habituellement cette institution-là. Il a défié presque toutes les conventions, toutes les traditions. Et quand c'est une tradition, mais c'est pas écrit nulle part, hein. Une tradition, ça, on le fait par habitude, finalement. On le fait parce que c'est ancré. Mais il n'y a rien nulle part qui dit que le président américain doit parler à tout le monde tout le temps. C'est pas ça que ça dit, la Constitution américaine. Donc, oui, j'ai trouvé ça regrettable dans un moment comme celui-là, où c'est volatile, où il y a des gens, on l'a vu avec l'assassinat, là, ouais, il y a des gens qui sont armés, il y a des gens qui sont prêts à prendre les armes. La moindre des choses, à la rigueur, n'en parlez pas, M. le Président, mais la moindre des choses aurait été d'y aller d'un appel au calme.
Luc, je parle souvent d'apaisement des tensions. On avait vu un genre de difficulté pour Donald Trump de le faire lors de son premier mandat. Les choses, le temps a passé, on est arrivé avec un deuxième mandat que je trouvais plus revanchard, hein? Essayer de rétablir son image versus gérer les États-Unis. On sent vraiment une division du peuple actuellement. Je ne comprends pas que Donald Trump et son équipe, par exemple, ne le comprennent pas. Alors, je suis rendue à me poser la question, quel est le dessein, quel est le but de Donald Trump? Je pense que c'est une question qui est cruciale en ce moment.
Ah, écoute, Pascal, communion d'esprit ce midi, on se rejoint en début d'après-midi. Je pense que c'est voulu. Quand on regarde les sondages, la plupart des Américains se disent centristes. Peut-être centre-gauche, centre-droite, mais la plupart des Américains ne sont pas dans les extrêmes. Donc, normalement, on devrait tenter de les rejoindre, on devrait tenter de leur parler. Certains ont voté pour Donald Trump sans être des partisans. Ils ne se voyaient pas voter démocrate. Ils ont préféré y aller pour un républicain, que ce soit Donald Trump ou d'autres. Mais ça ne semble pas intéresser le président de jouer avec ceux qui sont au centre. On veut aller vers l'extrême. Et une chose que j'ai lue, que j'ai dite et redite, ça vient entre autres du projet 2025 qui avait été pensé par ce qu'on appelle la Heritage Foundation, qui est ce qu'on appelle un think tank. Donc, un think tank, un groupe finalement de gens qui réfléchissent la politique. Et ces gens-là souhaitaient, dans leur programme, qu'applique en passant Donald Trump, que le président ait de plus en plus de pouvoir. Et donc, tu disais, quel est le dessein du président? Au-delà de tout ça, tout ce qu'on peut récupérer et canaliser pour justifier que le président ait plus de pouvoir, incluant plus de pouvoir que ce que la Constitution prévoyait, c'est ça le dessein. Donc, on va très loin parfois, vous avez peut-être lu, hein, des accusations de fascisme ou d'extrême droite. On n'est pas là. Moi, je pense qu'on devrait, au moment où on se parle, utiliser dérive autoritaire. Dérive autoritaire au sens où c'est le souhait clairement de l'administration Trump. On fait tout ce qu'on peut pour avoir plus de pouvoir. Et ces pouvoirs-là n'ont pas été conférés par la Constitution américaine. Mais en même temps, ben, si on veut justifier qu'on prend plus de pouvoir, ben, c'est bien, entre guillemets, si les gens ont peur, s'ils craignent, si on les divise, ben, c'est voter maintenant pour moi. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Hein. On le sent parfois ici, puis c'est très, très clair aux États-Unis. Les algorithmes, les chambres d'écho, ça fait des ravages. Chez nous, on le voit, par exemple, vous en avez peut-être à l'occasion à l'émission, hein, si on se résume ou si on se limite aux réseaux sociaux, on sort dans la rue après, puis on se dit, mon Dieu, c'est... il y a des gens qui sourient, il y a des gens qui s'entraident.
Ouais, c'est ça, c'est différent. Ben, d'ailleurs, oui, les médias sociaux représentent peut-être 4-5% de la population, 95%,
ben voilà.
Et un peu plus au centre. Je me trompe-tu en pensant ça, Luc?
Ben écoute, ça va dans le sens de ce que je lis puis de ce que je constate aux États-Unis. Donc, les statistiques aux États-Unis sont claires. Il y a peut-être 6% des gens qui se définissent dans les extrêmes. Mais on a l'impression que les réseaux sociaux, pour générer plus de clics, pour générer plus de circulation, on a l'impression qu'on va miser sur les 6% ou qu'on les met en valeur à tout le moins plus que les autres. Et quand je discute avec les gens, je vais discuter, ça m'arrive souvent parce que j'adore ça, discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais c'est convivial, ça peut être plus intense par moment, mais ça ne ressemble jamais à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Et aux États-Unis, c'est très, très, très fort et ça l'est encore plus pendant les campagnes électorales.
Il y a beaucoup de démotivité dans tout ça aussi. Puis, tu sais, on a reçu un texto au 88-971-1021 qui dit « Ils ont tenté de le tuer deux fois. Ils ont assassiné un de ses plus proches collaborateurs et vous voudriez qu'il pardonne. Le temps n'est pas au pardon, désolé. Vous vous plantez royalement. » Je vais me permettre une opinion. Les gars, je veux vous entendre aussi là-dessus.
Let's go.
Je pense qu'en aucun cas, on ne doit pas dénoncer ce qui s'est passé. Mm-hmm. Ce doit être inadmissible. On ne tue pas quelqu'un qui n'a pas la même opinion que nous. On ne tue pas quelqu'un, point. On est d'accord avec ça. Si on met le doigt sur le pourquoi, parce qu'il y a enquête, qu'on l'évoque, qu'on en parle, mais il y a une différence avec le fait de ne pas calmer une tension et de ne pas rallier son peuple quand une tragédie arrive comme celle-là, comme on voit peut-être pour la défense de la liberté d'expression, mm-hmm. où là, différentes personnes de différents camps se disent « OK, là, on s'affronte en termes d'idées, d'idéologie, on s'affronte socialement avec nos verbes, mais même si on a la verbe qui est différente, l'opinion qui est différente, on doit défendre le fait qu'on a le droit de parler. » Est-ce qu'on fait une différence de votre côté, les gars, aussi là-dessus, par rapport aux commentaires qu'on a reçus?
Et c'est intéressant parce que bien des gens réagissent comme ça. Et si je peux me permettre, j'ai une longue expérience, mais surtout du terrain aussi aux États-Unis. Ce à quoi on assiste, et là, je ne parle que du président. Je ne parle pas de Kirk, je ne parle pas de sa conjointe non plus. Carrément, le président récupère ça parce que la colère, ça l'aide politiquement. Ça l'aide à déployer la garde nationale. Pour notre auditeur qui a répondu en disant « Vous voudriez qu'il pardonne », est-ce qu'il était là, par exemple, pour montrer la récupération? Est-ce qu'il a parlé quand, cet été, on a assassiné une politicienne du Minnesota et son conjoint? On les a assassinés lâchement, on a pris la peine d'abattre le chien avant de sortir de la maison. On a essayé, pendant une campagne électorale, d'enlever la gouverneure du Michigan pour être en mesure de l'éliminer. Il y a eu des gens arrêtés pour ça, il y a eu un procès. Mme Whitmer, c'est une démocrate. Donc, en passant, il y a même des juges de la Cour suprême hein, qu'on a tenté d'attaquer, qu'on a menacé jusque chez eux. Donc, là, on est en au-delà des étiquettes des partis politiques. Ce que je disais à propos de Donald Trump, c'est oui, il a été victime d'une tentative d'assassinat, on l'a couvert, on l'a relevé, et c'est horrible. Et j'espère que de chaque côté, on condamnait ça. Mais normalement, un président comme Obama, par exemple, j'ai déjà dit, hein, de l'autre côté, on l'oublie, mais quand Obama était président, je disais, attendez un peu, les gens qui sont plus à gauche, plus progressistes, les gens qui l'aiment beaucoup, d'abord, un, il y a eu des faiblesses à cette administration-là, et deux, il ne marchait pas sur les eaux, Obama. C'est allé trop loin dans l'émotion de l'autre côté. Ça semblait plus positif, mais c'était irréaliste. Combien de fois on a eu des attaques racistes contre lui et sa conjointe? On a aussi hein, déjoué des gens qui tentaient de s'approcher d'Obama. Il y a quelqu'un qui est rentré à la Maison-Blanche à un moment donné, qui a échappé au service de renseignement. On a la mémoire un peu courte sur ces sujets-là. Mais jamais on a entendu Obama dire « Hey, la droite radicale, hein, calmez-vous, je vais vous arrêter, je vais envoyer l'armée dans la rue. » C'est là où la personne du président, c'est pas un personnage ordinaire. Mmh. Et normalement, dans le cadre de ses fonctions, bien sûr qu'il va mettre en place des lois ou des projets qui sont favorables aux conservateurs et qui sont favorables à la droite. Ceux qui, ici, aiment Donald Trump, c'est souvent pour ça. On juge qu'on devrait essayer certaines de ces choses au Québec, ici, au Canada. Donc, mais normalement, au-delà de ce qu'on appelle l'agenda politique, au-delà des lois qu'il propose, il devrait calmer. De dire, finalement, hein, d'abord, il a carrément dit dans ce deuxième mandat, tu disais, Pascal, tu as utilisé le terme « revanchard », c'est exactement ça. Il a dit « je vais me venger et je vais vous venger ». Donc, c'est très fort de la part d'un président quand il parle de sa population. J'ai entendu en fin de semaine Stephen Miller, puis après ça, je te laisse relancer, Jeff. J'ai lu en fin de semaine, Stephen Miller, son conseiller, dire qu'il allait protéger l'Amérique des Américains. Ça, c'est quelqu'un qui a l'oreille du président, là, qui est un de ses conseillers. On va protéger l'Amérique des Américains. C'est un discours qui est très, très, très fort et qui est très, très chargé. On est peut-être rendu là. Peut-être que certains appuient ça. Mais si vous me dites que c'est un appel au calme, qu'on souhaite calmer le jeu ou rapprocher les gens, clairement, c'est pas ça qu'entend faire l'actuelle administration.
Non, t'as entièrement raison, Luc. Et moi, hier, il y a une image qui est frappante, c'est qu'on est aux funérailles de Charlie Kirk et que le président doit faire son discours derrière des vitres par balles. Moi, juste avec ça, si je suis le président des États-Unis, je dis « OK, c'est le temps qu'on se réconcilie. » Ça n'a pas de bon sens que je sois obligé de parler derrière des vitres par balles. Et tantôt, tu as mentionné un terme qui m'a vraiment allumé, c'est « dérive autoritaire ». Et ça me permet de faire un pont avec la liberté d'expression.
Ouais.
Est-ce que la liberté d'expression souffre de cette dérive autoritaire? Moi, selon moi, oui, parce que Donald Trump met énormément de pression en tant que président sur les médias pour que les médias cessent de le critiquer et va même jusqu'à faire congédier des gens des ondes.
Et là aussi, je disais, il faut voir l'intention. Il y a des gens qui disent « Ah, les médias, vous savez, ils sont favorables aux démocrates en général. » Par expérience, c'est la première chose que je fais le matin. Je fais le tour des réseaux. Là, j'ai plein de signets pour vérifier. Là où je vais chercher mes nouvelles, ouais, mes interprétations de nouvelles du matin, on trouve de tout aux États-Unis. On trouve de l'extrême et puis du moins extrême, du pro-Donald Trump, le Washington Times, par exemple. On va aller lire le New York Post, on va aller lire Fox News, par exemple. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de médias qui, oui, sont effectivement, les gens qui le disent sont, ont raison, ce sont des médias qui sont considérés comme plus progressistes. Le New York Times, par exemple. MSNBC, le réseau de télévision. On n'est pas loin de Fox News en termes de partisanerie. Là, en termes de sujets, on couvre avantageusement plus la gauche et les progressistes. Donc, il y a des présidents qui se sont exprimés là-dessus, mais jamais un président avant Donald Trump n'est allé aussi loin pour faire taire des gens. On a vu ça avec, là, on remonte loin dans le temps, c'est l'historien qui parle, et c'était, en guillemets, c'est avant moi. Ça signifie que c'est déjà un peu vieux. Donc,
arrête donc, Luc, t'es encore tout jeune.
On parle de la chasse aux sorcières et du macartisme, la chasse aux communistes après la Deuxième Guerre mondiale. Là, on a un sénateur qui était suffisamment influent, qui a profité d'une peur collective, d'une émotion, ça rappelle le contexte actuel, et on a exercé des pressions très fortes sur les médias pour ne pas aborder certains sujets ou encore pour mettre de côté des gens qui ne disaient pas ce qu'on souhaitait entendre. Moi, ce qui m'a troublé dans les derniers jours puis dans les dernières semaines, c'est le rôle que jouait l'équivalent du CRTC aux États-Unis, qui est la FCC. Et le président de la FCC, qui est une personne compétente, c'est quelqu'un qui a une large expérience dans les médias, cette personne-là a exercé des pressions directement sur des compagnies ou des corporations pour qu'on prenne la décision de faire taire des gens. Et il y a énormément d'argent. Hein? C'est derrière le fait qu'on ne va pas renouveler Stephen Colbert, par exemple, l'humoriste à CBS. Et ceux qui écoutent, c'est clair, là, Colbert, il fait son pain et son beurre de frapper sur Trump. Donc, soyons honnêtes, francs et transparents. Mais derrière le fait qu'on ne renouvelle pas son mandat, il y a peut-être, c'était moins payant que ça l'a déjà été, les émissions de fin de soirée, mais il y avait carrément une fusion entre grandes corporations et la famille Ellison, qui était derrière une de ces corporations, voulait obtenir sa licence et l'autorisation de faire la fusion de la part de la FCC. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a mis Colbert dehors. C'est un peu ce qui s'est produit aussi avec Jimmy Kimmel. Est-ce que c'était de bon goût ou de mauvais goût ce que dit Kimmel? Je vous laisse juger. Il n'y avait rien là-dedans qui allait à l'encontre du premier amendement, de la liberté d'expression, puis de l'encadrement qu'on en fait, la liberté d'expression, par le premier amendement. Mais il y a encore là beaucoup de sous. Et c'est quand on a menacé l'argent, les propriétaires qui n'avaient pas réagi aux propos de Kimmel, quand le patron de la FCC a dit « vous devriez agir », c'est là où on a suspendu brutalement l'émission. Donc, il y a quelqu'un, en passant à Fox News, un co-animateur de Fox News, qui a appelé à tuer des gens, littéralement, les plus pauvres et les plus démunis, ceux, entre autres, qui refuseraient d'être aidés par l'État. Lui, il a dit « moi, je propose des injections létales involontaires ou encore qu'on les tue ». Ce gars-là est encore en onde et, à ma connaissance, la FCC n'a pas appelé Fox News pour dire « ce gars-là devrait se taire » ou au moins le suspendre pendant un temps. Donc, c'est là où je dis qu'on est en train d'instrumentaliser ou de politiser la liberté d'expression en jouant avec le pouvoir politique, puis le pouvoir de l'argent. Puis de l'argent, il y en a à gauche comme à droite. Ce n'est pas des gens pauvres qui possèdent les médias qui sont progressistes. Hein? Donc, il y a clairement de l'influence qui se fait là. Mais quand vous intervenez dans la liberté d'expression et que vous le faites que d'un côté en plus, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement que de la récupération.
Non, en effet, c'est très questionnant ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis, Luc. Et tu sais quoi, ça va continuer à être questionnant, donc on va être obligé de se reparler à nouveau dans l'émission d'En Jase.
Écoute, c'est toujours un plaisir avec Pascal et toi, puis n'importe quand.
Parfait, merci beaucoup, Luc Laliberté, pour ta participation aujourd'hui. On l'apprécie tellement. Pascal Séveille, c'est vraiment pas rassurant, par exemple, d'entendre Luc Laliberté, même s'il est en forme.
Non, il y a une chose sur laquelle... Est-ce que je vais pas utiliser le terme rassurant. Il y a une chose sur laquelle j'ai accroché.
Ouais.
Sur le fait que son dessein actuel, son but actuel serait beaucoup plus dans un contrôle que
d'avoir
dans,
plus de pouvoir.
Que dans la division elle-même. Là, ça semble être l'exercice de la division pour avoir un contrôle. Et ça m'inquiète, tu comprends? Mais...
Diviser pour mieux régner, qu'on dit?
Exact. J'aurais été, je pense, plus inquiète parce que ça aurait amené énormément d'autres questions. Là, on y va avec des traits narcissiques, des envies de pouvoir décider ça, ce qui est inquiétant. Mais ça avait été une envie de division, selon Luc Laliberté, ce qui serait ressorti, j'aurais eu 150 000 questions de plus. Parce que
je
là,
comprends.
Il y aurait eu, OK, parfait, il y a vraiment envie de diviser le peuple. Alors, pour quelle autre raison que le pouvoir? Le pouvoir, là, dans le pire des cas pour Donald Trump, il va le perdre à un moment. En continuant comme ça.
Normalement, il devrait le perdre à l'élection de mi-mandat. C'est encore dans un an.
Ensuite, il va avoir des dommages collatéraux.
Clairement.
Immenses pour les États-Unis, la société, tout ce qui est contact avec l'international. Écoute, il y a des hausses de violence, mais souvent, quand viennent des tragédies comme celle de Charlie Kirk et de tout ce qui nous a énuméré au niveau des démocrates là, qui se font enlever, qui se font tuer aussi et tout ça, ça vient qu'à arriver sur notre terrain. Puis quand c'est sur notre terrain, auprès de nos proches et tout ça, il y a deux réactions. Il y a la réaction hyper émotive, qui est difficile à contrôler, à gérer dans un peuple comme ça, où tout le monde s'interinfluence. Puis il y a la deuxième possibilité, qui est le sentiment de ralliement. Ce qu'on a vu dans le discours de la femme de Charlie Kirk, qui est « j'ai pardonné », parce qu'elle, elle voit qu'il y a un problème là.
Qui est un discours tellement émotif, mais sensé.
Et qui a ramené l'importance de la discussion, du débat, mais par exemple, l'importance de qualifier d'insupportable et d'impossible à accepter en société qu'on tue quelqu'un pour ses opinions.
Ouais, exactement. On a une réaction ici par texto qui dit « La liberté d'expression, vous avez rien dit ou fait pendant la pandémie où il y a ce qui se passe à ce stade puis c'est la fin du monde. » Je suis vraiment en désaccord avec cette opinion-là. Puis moi, j'aime ça débattre.
Tu n'étais même pas en onde, non?
Non, c'est ça, je n'étais pas en onde. Non. Mais de deux, c'est parce qu'il n'y a jamais François Legault ou Justin Trudeau qui est intervenu auprès des médias pour dire « Hey, les gens n'ont pas d'affaires à dire ça. Hey, telle affaire. » Ce qu'on voit avec Donald Trump à l'heure actuelle ou via son média social Truth Social, réclame le congédiement d'animateurs de télévision, d'animateurs de radio, restreint l'accès à des journalistes de grandes chaînes médiatiques à la Maison-Blanche. Donc, il y a une très grande différence entre ça et ce qui s'est fait là, durant la pandémie. Moi, en tout cas, c'est là que je la vois la différence. Je ne sais pas pour toi, Pascal, mais moi, je vois la différence à cet endroit-là.
Je trouve ça intéressant ce que tu amènes, honnêtement, là, comme façon de voir les choses. Il y a aussi le fait que, je veux dire, toi et moi, notre cheval de bataille a jamais été comme d'autres commentateurs de l'actualité de dire « je peux dire ce que je veux ».
Non.
Notre approche, elle est différente. Alors, c'est sûr que vous pouvez vous dire « oui, mais vous n'êtes pas des défenseurs ». Non, non, nous, on est défenseurs du débat.
Oui.
Et c'est ça qu'on prône. C'est pas nécessairement le contraire ou la liberté de tout dire. Tu sais, moi, je pense que c'est pas toujours toutes les opinions qui sont en équilibre dans une société. Je veux dire, comme celle non. actuellement où c'est une division, pour moi, elle n'a pas sa place.
Je l'ai toujours dit, les radicaux de gauche, les radicaux de droite doivent s'amener plus au centre pour qu'on ait des débats d'idées intelligentes.
Et voilà. Donc, est-ce que tout ce qu'une personne radicale va dire, moi, je suis prête à assumer que c'est la liberté d'expression. J'ai quand même cette fine ligne-là qui est souvent en train de me titiller les entrailles à me dire... OK, mais là, attends, c'est un discours qui va amener à des tragédies, c'est un discours de division, c'est un discours de non-ouverture, puis tu y vas juste avec ta façon de voir les choses. Ça vient pas dans mes mœurs de communication.
Mais je suis d'accord avec toi, jamais je ne vais cautionner l'incitation à la haine.
Exact.
Ou même l'incitation à un crime.
Je ne considère pas ça comme de la liberté
d'expression. Non, puis là, je vais te donner un exemple. J'ai, sur les ondes ici à Boulevard 101, dit « ça n'a pas de sens ceux qui, lorsque Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat, ont dit « hey, c'est de valeur, ils l'ont manqué. » Non, non, non. Ça n'a aucun sens de penser ça. La démocratie ne se règle pas à coups de fusil. La démocratie se règle à coups de débat et d'idées.
Oui, puis tu sais, je veux dire, là est le point de me dire que dans les extrêmes, pour moi, ça, ce n'est pas le débat d'idées. Ce n'est pas une façon de faire valoir ces choses. Ce n'est pas la bataille que je veux livrer avec ma communication et avec le métier que j'ai choisi.
Exactement. Cependant, ben, lorsqu'on élit des gens dans un gouvernement, ben, des fois, ils vont prendre des décisions qui vont aller à l'encontre de ce qu'on aime. On a le droit de le dire, mais des fois, ben, la décision est prise. Et je vais te donner un exemple justement avec la COVID où j'ai été à l'encontre du gouvernement. Moi, je suis allé marcher pour que mes gars puissent recommencer à faire du sport.
Mm-hmm.
Je trouvais que c'était très néfaste pour mes garçons de faire de l'école en ligne puis de ne plus avoir d'activité physique.
Toi, ben, tu voyais une limite, là?
Exactement, je voyais une limite, là. Mais ben, c'est-tu quoi le gouvernement ne m'a pas écouté? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis allé dans la rue, j'ai manifesté. Puis le gouvernement a dit, ben non, regarde, c'est trop important pour nous, la COVID.
Puis t'étais encore en désaccord avec ça.
Mais... J'étais en désaccord, mais ben, à un moment donné, je me suis rangé derrière. J'avais pas bien le choix, je peux pas amener mes gars à l'aréna.
Par contre, toute la division qu'il y a eu autour de la vaccination.
Ouais.
Moi, quand j'entendais quelqu'un dire, OK, mais là, on s'est dépêché à faire un vaccin, j'irai pas le chercher. Je suis contre le fait qu'on me demande un passeport vaccinal pour des activités, pour voyager et tout ça. J'entendais ces discours-là. Ça faisait quand même en sorte que je me suis fait vacciner. Moi, la décision, c'était, je me fais vacciner. Le gouvernement a mis en place des limites. On n'a pas le choix de vivre avec. On a le droit de parler de ça. C'est complètement stupide qu'on sache maintenant qu'il est payant. T'sais, il y a plein d'affaires.
Oui, exactement.
Mais on était en crise sanitaire et je n'aurais pas mieux fait. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Il fallait stopper la valve. C'était ma décision. Mais toutes les critiques, les commentaires, les réflexions, elles sont intelligentes. Par contre, ce que j'aimais pas, c'est quand on commençait à se tirer dessus de façon imagée, je m'excuse dans le contexte.
T'as tellement raison.
En train de dire qu'on est des ci puis des ça, puis les familles qui se divisaient justement parce que là, l'un se faisait vacciner, puis l'autre disait, t'es pas dans ma famille, c'est fait vacciner, ou le contraire. Il y a énormément de choses qui m'ont dérangé là-dedans, mais j'ai jamais empêché quelqu'un de dire, puis j'ai pas dit que les gens étaient stupides. Je pense que là où j'ai dit, peut-être dans ma tête, qu'il y avait quelque chose de très inquiétant et de stupide, c'était du monde qui aime foncièrement la personne qui est devant elle, mais qui oublie qu'il l'aime parce qu'elle n'a pas la même façon de penser.
En effet. Et puis moi, je vais toujours accueillir les schèmes de pensée différents. Puis on va toujours en débattre. Puis il y a des fois, vous allez me faire changer d'idée. Puis il y a d'autres fois, ben, je vais tenir mordicus à mon idée parce que je vais me dire, sais-tu quoi? C'est la bonne. J'aime ma façon de penser. Comme sur le débat sur l'itinérance qu'on a eu aujourd'hui entre moi et Yannick Marceau, je continue à penser qu'il faut faire preuve d'humanisme face aux itinérants. Il est présentement 13h40. Pascal, on fait une courte pause. Puis par la suite, on revient avec... une discussion justement sur l'immigration?
Oui, avec plaisir.
Par rapport justement au passage de Kim Chu, à tout le monde en parle.
Puis j'ai parlé à un demandeur d'asile qui réussit foncièrement dans la vie, qui est même dans votre quotidien, qui vous parle de politique. Il y en a long à dire aussi sur ce contexte d'immigration.
J'ai hâte d'entendre ça. Restez avec nous, vous êtes sur Boulevard 101, l'émission d'En Jase. Oh oui, on aime ça t'en raconter l'actualité à On en jase le midi, de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Merci pour vos nombreuses réactions concernant justement la chronique de Luc Laliberté sur ce qui se passe aux États-Unis. Vraiment, mais vraiment pas évident. Rapidement, la météo, je vous le dis, c'est possibilité d'averse cet après-midi, 18 degrés. 23 degrés avec 30% de possibilité d'averse demain et 21 degrés alternance de soleil et nuages pour... mercredi. Pascal, il faut parler immigration. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis, je dirais depuis plusieurs années au Québec, mais là, de façon encore plus virulente.
Oui, encore plus, je pense, avec tous les demandeurs d'asile, ce qu'on voit à la colle et tout ça. Puis avec la crise du loyer, avec la crise financière, j'ai l'impression qu'un genre de discours politique qui a été utilisé en disant c'est la faute justement de l'immigration et tout ça. Puis il y en a d'autres qui se renvoient là-bas en disant oui, mais quand même, vous avez ouvert les portes, puis vous n'êtes pas capable de les intégrer sur le sens du monde. Fait que là, écoute, ça fait jaser de façon émotive, économique, puis encore plus sociale. Puis hier, Kim Thuy était à Tout le monde en parle.
Oui.
Je sais que tu écoutes l'émission, puis je t'ai dit ce matin, Jeff, va écouter le témoignage de Kim Thuy. Puis s'il te plaît, sans qu'on se parle, sors-moi des extraits qui t'ont marqué. On va en parler ensemble.
Et c'est exactement ce que je fais. Je commence avec celui où elle ne reconnaît plus le langage immigration au Québec.
J'ai le cœur brisé parce que je ne reconnais pas le discours, c'est ce qu'on entend dans les mots. Je trouve que les mots qu'on utilise de ce temps-ci sont très durs, qui conviennent peut-être à la langue française de France ou sinon à la culture américaine. Mais je trouve que ces mots-là, suicidaire, dilution, menace et tout ça ne correspond pas à la langue québécoise. C'est pas notre langue.
C'est vrai que c'est pas la langue du Québec. Sur les médias sociaux, je m'en vais déferler ma haine contre les immigrants.
Pis c'est fou d'entendre cette femme-là, autrice très connue. Je veux dire, c'est une personnalité qui fait jamais de remous. Cette femme-là rassemble, est très humaine. Fait, un fils autiste. Elle défend des causes nobles depuis toujours. Puis là, ça fait extrêmement réagir depuis son passage. Fait que tu vois qu'effectivement, le bas blesse là.
Oui, puis parce qu'elle a dit ça, t'as des Sophie Durocher, des Mathieu Bock-Côté qui ont dit, ben si t'es pas contente de ta société d'accueil, retourne chez vous.
Ça, je trouve ça simpliste un peu, comme façon de réagir. Bonjour, Mme Durocher. Bonjour, M. Bock-Côté. C'est très simpliste.
Là, elle a le droit, elle aussi, à son opinion. Là.
Puis c'est surtout qu'elle a les deux pieds dedans. C'est une femme qui a immigré ici, qui a choisi le Québec, qui a été en amour avec ses habitants. Puis juste à se demander, est-ce qu'auparavant, on avait plus de méconnaissance, mais on n'avait pas d'irritation face à des gens qui arrivaient ici?
En effet, t'as raison. C'est sûrement... Ben, t'sais, veut pas le discours, la CAQ aide pas, là, quand on parlait du fichier Excel tout à l'heure, là, ça aide vraiment pas, selon moi. Toi, tu veux me présenter quelqu'un, là. Tu me dis, hey, Jeff Fortin, moi, je veux te présenter quelqu'un, un réfugié qui est utile. Et c'est qui, ce réfugié-là? Voyons, non, ça existe, Pascal, là. Tu comprends là, mon sarcasme?
Ben oui, puis je me suis basée justement sur cette entrevue-là hier qui m'a amené dans diverses façons d'analyser les choses parce que c'est vrai que l'immigration qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas bien régie, où on accueille très mal les gens, vire souvent mal pour différentes raisons, mal dans les petits et les grands détails, si je peux me permettre le mot. Mais on en connaît un. Il participe aux émissions à Boulevard 102.1. C'est un homme très bien établi avec sa famille. Et c'est Victor Henriquez, mais l'analyste politique. Il parle même de la politique d'ici. Et lui, dans le fond, c'est pas juste un homme qui a immigré. C'était un demandeur d'asile. Je vais le laisser raconter son histoire.
Moi, je suis arrivé au Québec en décembre 95, le 12 décembre exactement. Et on est arrivé comme demandeur d'asile à l'aéroport de Mirabel. On avait été réfugiés politiques en France dans les années 80. Et lorsqu'on était retourné au Chili, ça s'était très mal passé, donc on avait décidé de ressortir avec mes parents et mes frères et sœurs. Donc, quand on est arrivé comme demandeur d'asile, on était ce qu'on appelle des sans-statut pendant 2 ans, le temps que je finisse mon secondaire. Et après ça, on a été refusés, d'ailleurs, comme demandeur d'asile. On est parti au Mexique pour faire notre immigration. La différence, c'est qu'à l'époque, lorsque je suis arrivé, très rapidement, en rentrant à l'école, j'ai senti que ça ne faisait pas de différence, mon statut, dans ce que j'avais comme possibilité au Québec, ce que j'avais comme possibilité d'intégration. J'avais un discours extrêmement positif sur l'immigration, extrêmement positif sur le pouvoir qu'on pouvait prendre, sur la place qu'on pouvait prendre dans cette société. Et ça, je trouvais ça extraordinaire, parce que je n'avais pas vécu la même chose en France. Cette chance-là, que moi j'ai eue quand j'avais 15 ans, que Kim a eue lorsqu'elle est arrivée, que des milliers d'autres ont eue, c'est cette chance-là qu'on aimerait que les gens qui arrivent aujourd'hui aient également. C'est celle d'être dans une société qui voit l'immigration, même temporaire, qui voit les demandeurs d'asile comme une richesse potentielle et qui voit tout ce que ces gens-là peuvent apporter à notre société avant de voir les problèmes que ça provoque. Parce qu'en ce moment, on nous met à l'avant beaucoup les enjeux, mais on nous met peu à l'avant la contribution de ces gens-là. Et ça, c'est essentiel dans le processus d'intégration. Parce que si j'étais arrivé à 15 ans...
Puis, tu sais, l'émission tire à sa fin, mais Victor, ce qu'il dit là-dedans, c'est pas juste avec des lunettes roses. Là. C'est dit, ceux qu'on fait entrer, les demandeurs d'asile qu'on on intègre à notre société sont de réels bénéfices. Là. On s'entend dans le mélange de cultures et tout. Puis il est allé plus loin. J'ai dit, OK, mais il faut faire des compromis, assurément. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Ce sont ces mots.
S'ouvrir, écouter, dialoguer, apprendre, vivre la richesse culturelle les uns des autres. C'est un partage. Puis c'est un partage extraordinaire. Faut aller partout au Québec, faut aller en région pour connaître le Québec. La langue, elle nous unit. Moi, je parlais français, c'est pour ça que je suis venu au Québec. La langue est essentielle. Mais c'est surtout de se rendre compte les uns les autres qu'on est une richesse pour l'autre, tout simplement. Puis c'est là où je dis, nous devons séparer ceux qui sont ici de ceux qui vont arriver. Si on a des enjeux d'intégration, puis qu'on se dit on a atteint notre capacité d'accueil, parfait, appliquons-le sur ceux qui s'en viennent. Mais faisons attention à ce qu'on dit sur ceux qui sont ici.
J'aime tellement ça.
C'est super important parce que c'est comme si le politique vient influer un peu notre façon de faire les choses, mais les gens qui sont ici, là, faut les intégrer comme dignes Québécois que nous sommes. Ils sont rendus ici. C'est pas en leur faisant la vie dure qu'on va les aider justement à intégrer la société. Bien au contraire. Fait que j'ai dit, pourquoi on s'est rendu dans ces discours-là, selon toi, Victor?
Parce que les gens ont l'impression qu'on est en train d'établir un nous contre un vous, puis c'est aussi l'ambiance dans laquelle on a ce discours-là à ce moment-ci, mais ce que Kim m'a apporté, c'est qu'elle montre qu'on est capable d'avoir le courage de parler en le faisant dans la bienveillance, en le faisant avec un discours très mûri, très réfléchi, et ça, c'est important. Je pense que la majorité des Québécois sont prêts à avoir cette discussion-là, puis je pense que la conversation doit se situer autour d'une chose. On a un travail à faire sur la question de l'immigration qui va arriver dans les prochaines années. On a à définir notre capacité d'accueil. D'ailleurs, j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qu'elle est, cette capacité-là, sur quoi elle est basée. Puis on a des choix de société à faire. Parce que si on décide de ne pas avoir d'immigration, d'avoir moins d'immigration, il y aura des conséquences sur des entreprises, sur des secteurs d'activité, sur plusieurs éléments. Cette conversation-là est essentielle. On a aussi des gens qui sont déjà ici. Et il faut les séparer de la conversation. Parce que, à partir du moment où ils sont ici, on veut qu'ils aient l'opportunité de s'intégrer comme nous, on l'a fait. Je parle, par exemple, de Kim, de moi, ou de milliers d'autres qui l'ont fait avant nous ou après nous. Et pour avoir cette intégration, il faut sentir, ce qu'on a toujours senti ici, qu'il y a ce désir de faire partie d'un clan. Qu'il y a ce désir...
On revient au sentiment de rassemblement dans une communauté.
Au sentiment d'appartenance.
D'appartenance et non de division. Mm-hmm. Puis les textos qu'on reçoit, c'est comme ouais, mais tout le monde doit faire des compromis. Quand tu arrives ici, il faut que tu te commettes selon comment les gens vivent. Ouais. Et il est tout en relation avec ce que vous dites. Là. Il est d'accord avec tout ça.
Clairement.
Mais si tu arrives devant quelqu'un, puis tu essaies de t'intégrer, puis tu sens une fermeture, ça aide en rien.
Et il faut faire attention de la façon justement qu'on parle de la chose. Puis je termine là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'une Kim Thuy se sente maintenant pas à la maison. Quand ça fait des années qu'elle vit.
Exact. Puis, tu sais, eux aussi ont à faire les compromis. Victor et Kim le disent amplement. Ils disent juste, on a perdu cet accueil-là qu'on connaissait aux Québécois.
En plein ça. Faut se redonner ces belles lettres de noblesse, les amis. On termine sur ces belles paroles philosophiques, Pascal Séveille.
À demain,
on
Jeff.
On se voit demain à midi. Ne manquez pas 12h30, Joanie Fortin qui sera là pour parler du défi Kilimanjaro avec Pascal Séveille. J'ai tellement hâte d'en parler avec vous autres, les filles. Bon, bonne continuité sur les ondes de Boulevard 101. C'est le retour de Gravel qui arrive à l'instant.